7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 décembre. J'espère que vous avez bien dormi. On va se réveiller évidemment ensemble jusqu'à 9h. Oui, l'actualité est tendue, l'ambiance est lourde sur le lendemain de l'attentat de Strasbourg avec ce nom à la une de l'actualité, Chérif Chekat. Il a 29 ans, il est ce matin l'homme le plus recherché de France. L'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg court toujours. Un appel à témoins a été lancé hier soir par la police. Toutes les infos sur l'enquête dès le journal de 7h avec Hélène Zellani. Comment mieux surveiller les individus radicalisés? Il serait 1500 dans les prisons françaises. Enquête à 7h20, dans Europe 1 va plus loin. 7h40, l'édito de Jean-Michel Apathy nous dira pourquoi les pouvoirs publics ont tant de mal à lutter contre le terrorisme. 7h45, je recevrai le criminologue Alain Bauer. On parlera des moyens dont dispose la justice pour faire face et des pistes envisageables pour mieux lutter contre la menace terroriste. 8h15, l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara qui reçoit la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Voilà pour le programme. On est là pour vous accompagner, pour vous informer jusqu'à 9h. Votre matinale info commence maintenant. Bon réveil à tous. Vous écoutez Europe 1.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce jeudi 13 décembre. Et bon réveil à tous, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Content de vous retrouver, Hélène Zellani, pour le journal. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Il est désormais l'ennemi public numéro 1, Chérif Chekat, le tireur de Strasbourg. Reste introuvable, un appel à témoins est lancé. Deux personnes tuées, une troisième en état de mort clinique. On sait désormais qui sont ces victimes et plusieurs cérémonies œcuméniques sont organisées pour leur rendre hommage. Et puis le cannabis thérapeutique devrait être autorisé en France, information Europe 1, mais pas question de légaliser les joints, ce sera plutôt sous forme de gélules ou de tisane.
Europe 1.
Chérif Chekat, 29 ans, est donc désormais l'homme le plus recherché de France. La police a diffusé un appel à témoins hier soir avec sa description et sa photo. 1m80, pommate, une marque sur le front. L'homme était fiché S pour radicalisation avec à son actif pas moins de 27 condamnations. Plus de 700 membres des forces de l'ordre sont lancés à ses trousses. Mais c'est une traque particulièrement compliquée, Pierre de Cossette.
Il s'est volatilisé après un échange de coups de feu avec des motards de la police dans le quartier du Neudorf au sud de Strasbourg. Le suspect venait de s'y faire déposer en taxi après avoir semé la terreur dans le centre-ville. Les recherches intensives des premières heures n'ont rien donné. Les fouilles d'appartements et de pavillons, pas plus que les inspections des coffres de voitures, n'ont été concluantes. Chérif Chekat est-il parti en Allemagne? Lui qui ne parle pas allemand, a-t-il pu bénéficier de complicité pour disparaître? Un autre chauffeur, par exemple. Les enquêteurs sont passés à une seconde phase, le travail sur l'entourage du suspect avec ses parents et deux frères en garde à vue, la téléphonie, la balistique, comment s'est-il procuré son arme? A priori un revolver modèle 1892, calibre assez rare, 8 mm, qui a servi à l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Un travail de fourmi, mais dans l'urgence, pour localiser le suspect, fiché S depuis 2 ans, mais qui il y a 10 ans déjà avait avec lui en prison une photo de Ben Laden, un homme qui de toute évidence n'avait pas envie de mourir avant-hier soir, mais dont l'antiterrorisme veut éviter à tout prix qu'il puisse repasser à l'action.
Pierre de Cossette, et l'appel à témoins publié hier soir prévient « Attention individu dangereux, surtout n'intervenez pas vous-même. Toute personne en possession d'informations permettant de le localiser est appelée à composer le 197. »
Le terroriste a tué 2 hommes sur le marché de Noël de Strasbourg. Un troisième est en état de mort cérébrale.
Et 12 autres personnes ont été blessées. Dès hier, la ville leur a rendu hommage avec notamment ce mot d'ordre « Strasbourg pleure ». Mais Strasbourg se relèvera. Plusieurs cérémonies œcuméniques étaient organisées.
On a un rôle tous à jouer maintenant dans la reconstruction. Qu'on ait vécu de près ou de loin, ce temps-là, bien sûr, une pensée particulière pour ceux qui ont été aux premières loges.
Il ne faut pas que la barbarie, que la violence gagne. Ça me paraissait absolument indispensable. Donc voilà, il ne faut pas en rester là.
C'est un petit pas à mon niveau pour les familles et pour les personnes qui sont décédées ou qui sont blessées. Je pense que c'est une manière de manifester ma sympathie.
Des Strasbourgeois interrogés par Charlotte Bechler et la cathédrale accueillera à 18h un temps de prière œcuménique. Il est important de parler de ces victimes dont on connaît désormais l'âge, la nationalité, parfois l'histoire. Justin Morin.
Les victimes sont âgées de 20 à 65 ans. On a d'abord rapidement appris le décès de 2 personnes. Un Strasbourgeois de 61 ans selon les médias locaux. Il a été touché alors qu'il attendait sa femme et son fils à la sortie d'une brasserie. Un touriste thaïlandais en visite avec sa compagne a également trouvé la mort. Une troisième victime est actuellement en état de mort cérébral après avoir reçu une balle en pleine tête. Il s'appelle Kamal, 44 ans, père de 3 enfants, un ressortissant afghan ayant fui la guerre. Il avait obtenu la nationalité française et tenait un garage près du stade de la Méno. L'attaque a aussi fait une dizaine de blessés, dont certains sont encore en réanimation dans un état grave. Un habitant originaire des Vosges a par exemple reçu des éclats de balles dans la nuque alors qu'il était dans le café Les Savons d'Hélène, café où se produisaient 2 musiciens âgés d'une vingtaine d'années, eux aussi blessés dans la fusillade. 2 membres d'Europhonica, un réseau de radio rattaché au Parlement européen, sont également grièvement blessés. Enfin, la fille d'un couple de fromagers célèbres du centre-ville de Strasbourg a reçu une balle dans le bras. Rapidement opérée, elle est aujourd'hui hors de danger. D'autres victimes, plus légèrement blessées, ont d'ores et déjà quitté l'hôpital.
Justin Morin.
À 7h45, je recevrai le criminologue Alain Bauer, auteur du livre « Comment vivre au temps du terrorisme ».
Europe 1, il est 7h04.
Le marché de Noël de Strasbourg, qui accueille 2 millions de touristes chaque année, va rester fermé aujourd'hui.
Oui, le préfet estime que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes pour l'instant. La sécurité, justement, c'est qu'elle a été renforcée sur tous les marchés de Noël de France, dans le cadre du plan Vigipirate Urgence Attentat. Exemple à Marseille, qui accueille aussi la foire au Santon. Les passants sont partagés entre crainte et fatalisme. Nathalie Chevance.
Sur le Vieux-Port, le marché de Noël est ceinturé par des barrières métalliques, des blocs de béton et un camion anti-intrusion. Dès ce matin, il n'y aura plus qu'une seule entrée. Mesure de sécurité nécessaire, mais toujours pas suffisante, estime Jean-Marc Santonnier.
À mon avis, il faudrait fouiller à l'entrée du marché. On se ressent surtout en première ligne, puisque les santons, c'est quand même très typique et puis ça a une consonance religieuse au départ. Donc on se fait un peu du souci aux attentats.
Une certaine fébrilité de la clientèle observée aussi par cette commerçante.
Il y a un monsieur qui vient de me dire qu'il avait du mal à sortir de chez lui, qu'il est venu parce qu'il voulait agrémenter sa crèche.
Donc il est venu acheter ses santons puis il est reparti.
Exact.
Pourtant les effectifs de police sont renforcés d'un tiers depuis l'attentat de Strasbourg. Du coup Annie s'est déplacée pour faire ses emplettes en famille.
Ça me fait pas peur, hein. Sinon on resterait à la maison, on ferait plus rien. Il faut continuer à vivre, hein. Se sent en sécurité quand même, il y a la police de partout.
Et là vous êtes venu avec vos 3 petits-enfants. Acheter des santons.
Tout à fait.
Mais les allées sont clairsemées, le tout dans un contexte social pesant. Josiane n'a jamais vu ça.
Il y a beaucoup moins de monde. Et c'est un contexte, c'est un peu tout. C'est pas l'esprit de Noël. Avec tout ce qui se passe, il n'y a rien qui fait penser à Noël.
Le Vieux-Port qui vivra encore au rythme des manifestations le week-end prochain. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et les manifestations, justement, seront-elles aussi nombreuses? Les gilets jaunes monteront-ils à nouveau à Paris? Pour certains, la mobilisation reste entière malgré l'attaque de Strasbourg et les appels au calme de l'exécutif. D'autres gilets jaunes considèrent qu'il est temps d'arrêter, au moins momentanément.
Je me dis que la correction et la solidarité doivent jouer. Dans ces cas-là, il vaut mieux attendre, quitte à reprendre le mouvement plus tard. Et malheureusement, on pleure des morts et des blessés graves. Nos forces de l'ordre, elles ont autre chose à faire que d'essayer de nous protéger lors de manifestations. Je pense que là, franchement, on attend quelques jours et là, on pourra reprendre le mouvement.
Patricia, gilet jaune rencontré à Chartres par Jean-Gabriel Bourgeois. À l'instant, cette information TF1-LCI, la mort d'un gilet jaune à Avignon. Un homme de 23 ans percuté par un camion à un rond-point. Ça s'est donc passé à Avignon. Le conducteur a été arrêté. C'est le 6e mort depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes. Et puis en Grande-Bretagne, Theresa May obtient la confiance de son propre camp. Le vote de défiance des députés était organisé hier. Elle arrive aujourd'hui au sommet de Bruxelles avec l'espoir d'obtenir de nouvelles garanties sur l'accord de Brexit. Mais pour les Européens, pas question de renégocier les termes du divorce.
Europe 1.
Dans un instant, le cannabis thérapeutique devrait bientôt être autorisé en France. C'est une information Europe 1. Bon réveil à tous.
Il est 7h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zellani, du cannabis sur ordonnance, ça devrait être bientôt possible.
Oui, c'est en effet aujourd'hui qu'on saura si le cannabis thérapeutique est autorisé en France, comme c'est déjà le cas dans une vingtaine de pays européens. Mélanie Gomez, vous nous révélez que le comité scientifique va rendre un avis positif, mais avec des nuances.
À ce stade, ce qui est sûr, c'est qu'en France, le cannabis médical ne sera pas mis à disposition des patients sous la forme de joints à fumer. Trop dangereux, trop toxique, notamment pour les poumons, surtout qu'on s'adresse là à des gens malades. Et puis m'a confié un proche du dossier, dans notre pays où on commence enfin à avoir baissé le tabagisme, ça ne serait pas cohérent. Donc chez nous, ce qui pourrait être autorisé, ce serait plutôt la forme orale, par exemple des gélules ou des tisanes, ou encore la forme inhalée, c'est-à-dire grâce à un système de vapotage. Ensuite, ces experts pourraient donner une liste de pathologies éligibles. Devraient y figurer les soins palliatifs et aussi plusieurs maladies neurologiques, comme la sclérose en plaques, en tout cas des maladies qui provoquent des douleurs résistantes aux traitements classiques. Enfin, de nombreuses questions doivent encore être tranchées. Qui pourra le prescrire? Pourra-t-on se le procurer dans les pharmacies ou alors directement chez le producteur, comme au Canada? Le cannabis sera-t-il remboursé, comme en Allemagne? Bref, ce comité d'experts va encore avoir 6 mois pour travailler sur ces questions. Et puis la loi aussi devra être modifiée. Résultat, pour être soulagés grâce à un cannabis médical légal, les patients devront encore attendre au moins jusqu'à fin 2019.
Les informations de Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Football, la France aura un deuxième représentant en Ligue des Champions.
Oui, c'est Lyon qui rejoint le PSG en 8e de finale. L'OL qui est allé arracher le nul un partout sous la neige de Kiev en Ukraine face à Donetsk. Un exploit pour les Lyonnais qui retrouvent enfin le top européen après une longue absence. Simon Rubin.
7 ans que Lyon ne s'était plus qualifié pour un 8e de finale de Ligue des Champions. Une éternité dans le monde du foot. Hier soir, les Lyonnais ont arraché leur qualification in extremis après le coup de sifflet final dans le vestiaire. Les joueurs célèbrent l'exploit. C'est le retour au premier plan que tout Lyon attendait. C'est magique, s'enthousiasme le milieu de terrain Lucas Touzard.
Ouais, la folie. On est tous très fiers, très heureux. Je pense que c'est pas rien dans l'histoire d'un club et d'un joueur, c'est aussi une très belle chose, donc faut savourer ce qu'on a fait.
C'est encore plus beau ce soir.
Et ce matin, Lyon est bel et bien la deuxième place forte du foot français derrière le PSG. Cette qualification, au-delà du sport, va aussi faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses du club, au moins 10 millions d'euros. Et puis pour les joueurs, jouer un 8e de finale, c'est une mise en lumière extraordinaire. Ce matin, Lyon est sur une autre planète parmi les 16 meilleures équipes d'Europe. Kiev, Simon Rubin, Europe 1.
Et puis saluons les handballeuses françaises qui ont battu les Serbes hier soir 38-28 lors du dernier match de poule de l'Euro. Elles sont qualifiée pour les demi-finales. Ce sera demain soir face aux Pays-Bas à Paris-Bercy.
Mais que j'aime votre journal, Hélène Zélani. Tous les jours à 7h sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11, souriez, c'est l'édito éco avec Région Job. Des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous. Retrouvez-les sur regionjob.com. Et l'édito éco, Nico, c'est avec Nicolas Barré.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Le président de la République l'a dit. Les salariés au SMIC vont toucher 100 euros de plus, mais ce qui devait initialement être très simple s'avère incroyablement compliqué. Expliquez-nous pourquoi, Nicolas.
Oui, alors depuis cette annonce présidentielle, je peux vous dire que les meilleurs experts de l'administration s'arrachent les cheveux qui leur restent, car pour augmenter les salariés au SMIC de 100 euros sans que cela coûte 1 euro aux employeurs comme le président s'y est engagé, eh bien il faut élaborer une tuyauterie qui n'est pas simple à mettre en place en quelques jours. Alors une solution consiste à augmenter la prime d'activité qui est distribuée par les caisses d'allocation familiale. Le problème, c'est que tous les SMICards n'ont pas droit à cette prime d'activité. Par exemple, s'ils vivent avec un conjoint qui gagne plus ou s'ils ont des enfants à charge. S'ils n'ont pas d'enfants à charge. Et en fait, environ seulement un quart des SMICards touchent cette prime. On peut donc facilement l'augmenter pour eux afin qu'ils empochent les 100 euros de plus. Mais comment faire pour les autres, pour les trois quarts des SMICards qui ne la touchent pas?
Ah oui, la question est là et c'est là que la tuyauterie dont vous parlez se complique.
Oui, alors il y a plusieurs idées sur la table. Par exemple, verser directement un chèque SMIC aux salariés concernés. Les URSSAF pourraient s'en charger, mais elles n'y sont pas préparées. Et puis surtout, s'il faut mettre ça en place dès le mois de janvier, on peut s'attendre à un gros embouteillage administratif. Et puis, autre piste possible, verser une prime d'activité à tous les salariés au SMIC. Il y en a 2 millions, mais alors quid de ceux qui sont juste en dessous ou juste au-dessus? Et puis, que fait-on des salariés qui sont au SMIC, mais à temps partiel, comme ça arrive très souvent, par exemple, dans la distribution? Et comment compter les heures sup dans ce dispositif? Vous voyez bien, suivant les réponses à ces questions, le nombre de bénéficiaires varie de plusieurs millions. Et enfin, si le dispositif retenu ressemble trop à une usine à gaz, le bénéfice politique de l'opération risque d'en prendre un coup. Vu la facture de plusieurs milliards d'euros, ce serait quand même un comble.
Nicolas Barré, l'édito éco, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1.
Et il est 7h13, l'heure de retrouver Carole Ferry, notre reporter en direct sur le terrain, Nikos.
Vous êtes où, Carole, ce matin? Bonjour.
Bonjour, je suis au bord d'un étang, au milieu de la nature, à A1, dans la Creuse. Face à moi, j'ai une maison à A1, c'est dans la Creuse.
Très bien.
Et face à moi, j'ai une maison vraiment écolo. Hein. Ça veut dire qu'elle produit très peu de CO2. Elle est 100% autonome, aucun abonnement, ni à l'eau, ni à l'électricité. En fait, cette maison, c'est un laboratoire conçu par la société Avenidor. Et attention, hein, rien à voir avec une cabane au Canada.
Canada,
c'est
aussi,
une maison,
au cannabis,
c'est une maison
comme
ultra moderne.
Thérapeutique.
Lave-vaisselle, lave-linge, 3 salles de bain. Vous avez même un jacuzzi.
Dites donc.
Mais pas de chauffage. Je vous emmène en visite avec le responsable du projet, Steven Kazuba.
Bon, on peut déjà se rendre compte que même s'il n'y a pas de système de chauffage, il fait à peine 6 degrés dehors et je sais pas vous, mais je pense qu'on se sent bien.
Vous avez un thermomètre ?
Ouais, donc il fait 20,8 degrés.
Et il n'y a pas de chauffage ?
Et il n'y a pas de chauffage, exactement. C'est grâce à énormément de surfaces vitrées orientées plein sud, donc le soleil va nous aider à chauffer la maison. On a des murs en béton cellulaire avec une isolation thermique par l'extérieur. Et un film qui nous permet d'avoir une maison qui est étanche à l'air. La chaleur qui rentre, elle est stockée dans la maison.
Est-ce que ça veut dire du coup qu'on a beaucoup trop chaud l'été quand il fait très beau ?
Non, on n'a pas trop chaud l'été parce qu'on va garder la fraîcheur de la nuit dans la maison grâce aux matériaux que nous avons utilisés lors de la construction.
Voilà, une maison étanche à l'air, il n'y a pas de chauffage, on l'a entendu, il y a de l'électricité, mais elle vient d'où l'électricité, Carole ?
Eh bien, elle vient des 60 panneaux solaires qui sont installés juste à côté de l'étang.
Les panneaux photovoltaïques ont été disposés juste à côté de l'étang pour maximiser la production via la réverbération sur l'eau, car c'est des panneaux bifaciaux, c'est-à-dire sous les panneaux, on a des cellules en plus, ce qui nous permet d'augmenter la production d'électricité.
Sur la même surface.
Exactement, à surface équivalente, on va augmenter de plus ou moins 20% la production.
En disant 68 sous les pavés, la mer, là on dit sous les panneaux, le soleil en fait, c'est ça.
Exactement.
On fait quoi quand il n'y a pas de soleil ?
Eh bien là, vous avez une station de batterie qui stocke l'électricité, c'est souvent le problème avec l'électricité, et vous avez quand même une autonomie de 6 jours environ.
Vous disiez pas d'abonnement à l'eau non plus, elle vient d'où l'eau ? Est-ce qu'elle est potable, Carole Ferry ?
Oui, tout à fait, je l'ai même goûtée, elle vient d'un forage à quelques mètres, et vous avez aussi une mini station d'épuration sur place qui permet donc de la rendre potable, mais aussi de rejeter les eaux usées propres dans les temps voisins.
Et de l'extérieur, elle ressemble à quoi ? Juste pour que j'ai une image.
Alors écoutez, rien à voir avec la Creuse. Hein. Elle est bleue à colombage. Elle serait parfaite en réalité en Alsace. Et c'est pas un hasard.
C'est une maison bleue.
Exactement. Vous avez la
matin.
Musique pour la fin. Ouais. Pour l'anecdote, les Chinois s'intéressent au projet car ils voudraient construire aussi un village à très haute performance énergétique en Chine. Mais sur le modèle, figurez-vous, le modèle esthétique de Colmar. Sauf que côté climat, la Creuse, c'est plus intéressant. Il fait très chaud l'été, très froid l'hiver.
Carole Ferry, dans la maison du futur, vous êtes tout ce matin. C'est notre rubrique quotidienne à 7h12 sur Europe 1.
Europe 1. Et il est 7h16, restez avec nous sur Europe 1 à suivre Nico Saliagas.
Alors évidemment, l'attentat de Strasbourg relance le débat. Que faire des détenus radicalisés ? Ils seraient aujourd'hui 1500 dans les prisons françaises. Et ce qui inquiète, c'est que 300 d'entre eux sortiront en 2019. Quel dispositif est mis en place par la justice et les services de renseignement pour faire face concrètement à ce danger potentiel ? Enquête à suivre dans Europe 1. Va plus loin dans quelques instants.
Il est 7h18. Les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Un gilet jaune de 23 ans décédé cette nuit à Avignon. Il a été heurté par un camion. Le conducteur a été arrêté. C'est le 6e mort depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes. Toujours aucune trace de Chérif Chekat, le tueur du marché de Noël de Strasbourg. Un appel à témoins avec sa photo a été diffusé hier soir par la police. En cas d'information, il faut appeler le 197. En Grande-Bretagne, Theresa May remporte le vote de défiance au sein de son propre parti. Mais elle arrive affaiblie au sommet de Bruxelles qui commence aujourd'hui.
Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin. Enquête sur les détenus radicalisés.
On le disait dès hier sur notre antenne, le tireur présumé de Strasbourg, Chérif Chekat, 29 ans, a déjà été condamné à 27 reprises. Il a passé près de 4 ans dans les prisons françaises. C'est d'ailleurs en prison qu'il a été signalé comme radicalisé, avec même du prosélytisme. Il était fiché S et s'inscrit depuis 2016 au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Ce matin, on va se pencher sur cette question de la radicalisation et des sortants de prison avec vous, Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, Salomé, de combien de détenus parle-t-on concrètement ?
Eh bien, il y a en ce moment exactement 504 personnes en détention provisoire, c'est-à-dire qui attendent leur procès, ou condamnées pour des faits liés au terrorisme. Ça va de l'apologie au retour de Syrie jusqu'au projet d'attentat. Il y a également environ 1000 personnes écrouées pour des faits de droit commun, braquage, violence, escroquerie, trafic en tout genre, et qui sont susceptibles d'être radicalisées. Parmi elles, 300 doivent sortir de prison l'an prochain. On va y revenir tout de suite. Mmh. Mais attention, dans chacune de ces catégories, il y a des profils très inquiétants et d'autres beaucoup moins.
Mais comment on le sait ?
Et c'est très difficile de savoir ce qui relève de la provocation, ce qui est une stratégie pour être tranquille en prison ou ce qui est de la dissimulation. Du coup, Il y a un peu moins d'un an, on a créé les CAIR, quartiers d'évaluation de la radicalisation. J'ai pu en visiter deux. Pendant 4 mois, les détenus sont scrutés. Ils ont des entretiens avec des psys, des éducateurs, des surveillants dédiés. Ils peuvent être sur écoute, parfois même par des équipes arabophones. Et à l'issue, 3 possibilités se dégagent pour un tiers les moins dangereux. C'est le retour en détention classique avec une surveillance attentive du renseignement pénitentiaire. Mmh. Pour les autres, on a encore là 2 profils. D'un côté, les plus prosélytes qui sont placés dans des quartiers à part. Il y en a par exemple un à Lille-Anneuillin ou bien à Condé-sur-Sarthe. Ils sont entre eux pour éviter qu'ils ne recrutent les autres. Ils représentent un tiers aussi. Et donc, pour le dernier tiers, les plus dangereux, car considérés comme influençables et capables de passage à l'acte violent, ils sont placés à l'isolement pour qu'ils ne soient pas la cible de stratégies d'emprise mentale.
Mais Salomé Le Grand, certaines voix s'élèvent contre ce traitement, précisément.
Et oui, beaucoup d'avocats de ces détenus signalent qu'en fait, ce choix de les isoler et de les traiter différemment peut en fait alimenter leur radicalisation. Écoutez Maître Marie Dosé.
Ils ont accès à beaucoup moins de choses que le détenu lambda. Par exemple, ils ne peuvent pas travailler. Parfois, ils sont dans un système d'isolement. Il manque aussi une contradiction digne de ce nom, leur nature religieuse. On essaye de les isoler des autres et donc on s'enferme en soi-même. Et donc on s'enferme dans le pire de soi-même puisque on est figé sur l'infraction qui nous est reprochée. Je constate que c'est complètement contre-productif. On crée de la défiance, de la colère et de la...
De la colère et de... J'ai pas entendu la fin de l'interview, mais c'est pas très grave. Mais bon, la réalité, c'est qu'ils vont sortir un jour ou l'autre, certains même dès l'an prochain. Et là, on fait quoi, Salomé Le Grand ?
Eh bien, donc, comme je vous le disais, 300 détenus de droit commun signalés comme radicalisés vont sortir, c'est-à-dire le profil du suspect de l'attaque de Strasbourg. Sortiront aussi une petite cinquantaine de condamnés pour des faits liés au terrorisme et qui ont purgé leur peine. Tout un arsenal judiciaire de suivi est prévu, par exemple des bracelets électroniques géolocalisables. Mais ce qui est le plus important, Nico, c'est la circulation de l'information. C'est pour ça que le renseignement pénitentiaire est devenu un vrai service de renseignement avec les mêmes habilitations, les mêmes exigences pour pouvoir échanger d'égal à égal avec la DGSI, par exemple, et assurer la continuité du suivi, faire en sorte que la détention ne soit pas une parenthèse. Alors, fréquentation, comportement, changement notable, tous les liens avec l'extérieur, tout est noté. Et une cellule de 100 personnes environ, spécialisée au ministère de l'Intérieur, est chargée de répartir les sortants. Un tel aura un suivi piloté par la DGSI, tel autre par le renseignement territorial. Et ensuite, c'est au niveau départemental, sous l'égide du préfet, qu'on va décider d'intensifier ou de ralentir les surveillances. Mais quand on sait que ces services suivent déjà une grosse moitié des 20 000 fichés au titre de la prévention de la radicalisation terroriste, évidemment, il est impensable et matériellement impossible d'avoir une surveillance de chacun 24 heures sur 24.
Analyse et reportage très intéressant avec vous, Salomé Le Grand du service police-justice d'Europe 1. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h20, 7h45. Je recevrai le criminologue à ce sujet, justement, Alain Bauer.
Si vous souhaitez réagir, nous vous écouterons au 3921 et nous vous lirons également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h23.
Dans un tout autre registre, ma chère Céline Dacosta, il y aura l'innovation du jour avec Anissa Mbida. Une innovation qui tombe à pic ce matin avec le retour du grand froid, des matériaux anti-gel pour ne plus avoir à dégivrer, à gratter le pare-brise de sa voiture ou même son frigo. Oui. On vous dit tout dans quelques instants sur Europe. Pas tout de suite. Bon réveil.
Il est 7h26.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissa Mbida, Nico Saliagas.
Mon cher Anissa, le froid est là, il s'installe, voilà, inexorablement. Et avec lui, le givre qu'il faut parfois gratter le matin avec sa raclette. Heureusement, Anissa, vous avez trouvé une solution. Des vitres anti-gel sur lesquelles le givre ne peut pas se former. Expliquez-nous.
Oui, ce sont des chercheurs de l'université Virginia Tech aux États-Unis qui ont découvert qu'en gravant un petit motif microscopique bien particulier sur une surface, hein, ça peut être n'importe laquelle, du verre, du plastique, du métal, eh bien ça bloquait la formation du givre. Donc si on ajoute ce micro-rainurage sur votre pare-brise ou sur votre carrosserie, ben, on pourrait laisser sa voiture toute la nuit dehors, dans le froid, dans l'humidité, et le matin, nickel, hein, elle n'aura quasiment aucune trace de givre, pas besoin de chauffage, ni besoin de sa
petite raclette.
Alors dites-nous, ce micro-rainurage, il marche aussi pour la neige, Nice ?
Non, malheureusement, uniquement pour la glace. Hein, si tombe 50 cm de neige, les petits motifs ne pourront pas faire grand-chose. Mais avouez que c'est assez facile d'enlever la neige, c'est gratter la glace qui est quand même plus compliqué. D'ailleurs, c'est aussi un problème pour les avions. Vous avez peut-être entendu parler des avions qui étaient en retard parce qu'il fallait dégivrer les ailes.
C'est
très dangereux, ça peut bloquer les volets. Aujourd'hui, on utilise des produits chimiques, ça pollue les nappes phréatiques, alors qu'avec cette petite gravure, la carlingue deviendra naturellement anti-gel.
Est-ce que cela pourrait aussi empêcher le givre dans les congélateurs ?
Oui. Et là aussi, ça éviterait une sacrée corvée. C'est tout l'intérêt de cette innovation. Elle est totalement passive. Pas de revêtement particulier, pas de chaleur, pas de produits chimiques. Juste un petit motif gravé qui empêche le givre de se former.
Anissa Mbida, ça vous dirait un petit micro-rainurage ce matin pour bien vous
pour
réveiller ?
Empêcher de vivre.
L'innovation un peu givrée, c'est tous les jours à 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur même des territoires pour faire progresser la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans deux minutes, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Vous en avez, vous, du micro-rainurage, Laurent Cabrol, dans vos...
Je suis sûr que oui.
Moi, j'ai ce qu'il faut, moi. J'ai le grattage et le tirage. Grattage du pare-brise et le tirage du starter.
Voilà. Double chance, double peine. Allez-y.
Eh oui, il en faut, parce que moins 7 degrés à Luxeuil en ce moment.
Trop fort, Laurent.
Moins 6 à Épinal, moins 5 à Nevers, moins 3 à Bourges, moins 2 à Lyon. Oui, des températures très très froides. Moins 1 en banlieue parisienne. Lille, Caen, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Marseille, autour de 0 degré. Bon, voilà, c'est pas folichon, mais enfin, on va faire avec. La pluie, elle est là uniquement pour l'instant sur le Finistère et les Landes, mais elle va gagner la Bretagne, la Loire-Atlantique, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le Béarn. Elle va gagner aussi le Midi-Pyrénées, les Cévennes, le bassin méditerranéen, la basse vallée du Rhône, et ce, dans l'après-midi. Donc, ce sont les zones pluvieuses, mais elle ne va pas aller plus loin. Comme hier, elle sera bloquée, de sorte que Paris n'y aura pas de pluie. Les Hauts-de-France, la Normandie, Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, dans toutes ces régions, bien sûr, ce ne sera pas forcément un grand soleil, mais il y aura de belles éclaircies, et les pluies ne seront pas là, et dans une moindre mesure aussi des éclaircies sur le Massif central et sur Rhône-Alpes. Voilà, vous savez tout. Les températures maximales...
Oui, quelques températures, s'il vous plaît.
Entre 2 et 7... Ah, le ton.
Oui, je ne sais pas pourquoi.
Pêchez-vous.
2 à Strasbourg,
merci,
3
monsieur.
À Paris et Lille, 4 à Caen, 5 à Clermont-Ferrand, 6 à La Rochelle et 9 degrés à Toulouse.
C'est à Toulouse où il fait plus chaud ?
Non, c'est à Biarritz, il en fait 14. Bon. J'ai arrêté 9 à Toulouse, mais on va jusqu'à 14 à Biarritz.
14 degrés, vous avez de la chance à Biarritz. On vous embrasse, à tout à l'heure Laurent Cabrol, merci beaucoup.
À suivre Nikos Aliagas.
Eh bien, deux jours après le drame de Strasbourg, le terrorisme s'invite à nouveau dans le débat et dans 10 minutes, Jean-Michel Apathy nous dira pourquoi les pouvoirs publics peinent à combattre efficacement la radicalisation. 7h45, je reçois le criminologue Alain Bauer. Sommes-nous impuissants face au terrorisme ? Réponse dans quelques instants. Bon réveil à tous. Vous écoutez Europe 1.
Et nous sommes le jeudi 13 décembre, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Un plaisir de vous retrouver, Céline Kallmann. C'est le journal de 7h30. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Strasbourg se réveille pour la deuxième matinée consécutive, quadrillée par les forces de l'ordre. Plus de 700 policiers et gendarmes mobilisés pour retrouver un homme dont on connaît désormais le nom et le visage. Shérif Chekat, 29 ans, déjà condamné 27 fois et soupçonné d'avoir tué 2 personnes, d'en avoir blessé 14 autres. Les Strasbourgeois ont peur ce matin, comme Myriam, mère de 2 enfants.
J'attends juste qu'on nous dise qu'ils l'ont attrapé, bien sûr, ça fait peur. J'ai mon fils de 3 ans qui n'a pas encore vraiment compris, mais j'ai ma fille de 6 ans qui a vraiment eu peur. Et je lui ai dit que la police, elle va tout faire pour essayer d'attraper la personne qui a fait ça, et qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, que j'étais avec elle. Et franchement, j'espère qu'ils l'arrêteront. Maintenant, la personne, elle doit se dire foutu pour foutu, je peux faire n'importe quoi. Du coup, on n'est pas en sécurité.
Myriam au micro de Pierre Herbulot pour Europe 1. Le visage du tueur a été diffusé dans un appel à témoins par la police. Ses parents et 2 de ses frères ont été placés en garde à vue. On connaît également ce matin les identité des victimes de Shérif Chekat, un père de famille qui se trouvait avec sa femme et son fils dans un restaurant. Ces derniers sont partis aux toilettes. Lui a été abattu. L'autre victime est un touriste thaïlandais de 45 ans et parmi les 14 blessés, un ressortissant afghan en état de mort cérébrale.
Et Céline Kallmann, le marché de Noël de Strasbourg va rester fermé aujourd'hui.
Oui, le préfet estime que les conditions de sécurité ne sont pas encore suffisantes pour ouvrir le marché qui d'habitude chaque année attire plus de 2 millions de touristes. Une prière œcuménique est prévue à 18h à la cathédrale de Strasbourg et la grande mosquée de la ville, a par ailleurs condamné cet acte infâme, lâche et barbare.
Et nous l'avons appris il y a une demi-heure, la mort d'un gilet jaune de 23 ans, percuté cette nuit par un poids lourd. Ça s'est passé à un rond-point à Avignon.
Ouais, c'est le sixième mort depuis le début du mouvement. Le conducteur du camion, âgé de 26 ans, a été placé en garde à vue. Cette question ce matin, l'attentat de Strasbourg aura-t-il un impact sur la mobilisation des gilets jaunes? Le gouvernement en appelle en tout cas à la responsabilité des manifestants. Plusieurs ministres ont demandé l'arrêt du mouvement. Sur les réseaux sociaux, l'appel à l'acte 5 a été lancé pour samedi. La sécurité est renforcée sur tout le territoire et à Bordeaux, le préfet de la Gironde, Didier Lallement, a lancé un appel à la raison.
Laissez-nous faire notre métier. Notre métier, c'est de lutter contre le terrorisme, c'est de lutter contre la délinquance. Laissez-nous protéger les femmes, les enfants, les familles et les hommes qui se battent pour travailler et pour vivre normalement dans la cité. Vous aviez noté que ce qui s'est passé les week-ends précédents n'était pas des manifestations déclarées, mais c'est pour ça que je lance cet appel, parce que franchement, nous avons autre chose à faire, vu le niveau de menace, que faire des services d'ordre à n'en plus finir contre des gens qui viennent casser.
Le préfet de Gironde, micro de Stéphane Place.
5 thèmes ont été retenus par le gouvernement pour le grand débat local annoncé par Emmanuel Macron, et ce pour répondre à la crise des gilets jaunes.
Oui, 5 thèmes parmi lesquels la fiscalité, l'immigration et la transition écologique. Hier après-midi à l'Élysée, plus d'une centaine de chefs d'entreprise ont aussi été reçus. Le chef de l'État a demandé aux patrons de prendre des engagements. Total, Havas, Publicis ou encore Orange ont annoncé le versement d'une prime exceptionnelle à leurs salariés. Pour le PDG d'Orange, Stéphane Richard, toutes les entreprises doivent se mobiliser.
Il y a une urgence, il n'y a pas que cette prime, il y a d'autres chantiers. Moi j'ai évoqué la résorption des zones blanches dans mon secteur. Ça fait partie aussi de la lutte contre cette fracture territoriale. Parce que ça crée aussi un sentiment d'abandon des territoires, donc je pense qu'on peut accélérer les choses. Il faut que chacun regarde dans son domaine ce qu'il peut faire dans l'immédiat. Et je pense aussi qu'il faut que les entreprises participent à l'effort de refondation qui est à faire devant nous.
Stéphane Richard avec Maud Descamps. Hier, l'Assemblée nationale a observé une minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque de Strasbourg, une unité nationale de courte durée. Aujourd'hui, la motion de censure déposée par les insoumis, les communistes et les socialistes va être débattue cet après-midi et soumise au vote. Pour le député Alexis Corbière de la France Insoumise, pas question de retarder ce débat.
Quand même pas un criminel qui va faire en sorte que l'ensemble des débats que nous devons avoir pour le pays s'arrête. Nous pensons que ce gouvernement doit être sanctionné. Et notre manière à nous moyens de députés dans le cadre de la Ve République, d'opposition, où on a bien peu de pouvoir, c'est cette motion de censure. C'est notre rond-point à nous, si je puis dire, que nous tenons à notre manière. Celle de dire de ce gouvernement, eh bien, on veut le sanctionner. Et la seule moyen dont on dispose, c'est cette motion de censure.
Alexis Corbière au micro d'Adrien Beck. Theresa May survit au frondeur. La première ministre britannique a remporté hier soir le vote de défiance organisé par les députés de son propre parti. Elle a déjoué tous les pronostics. Le sort du Brexit repose désormais sur ses épaules. Elle a promis de se battre de toutes ses forces pour rester en place et finir le travail. Et puis cette info de dernière minute que l'on apprend à l'instant à Jérusalem. Un attaquant vient de blesser 2 membres des forces de sécurité avant d'être abattu. On y reviendra à 8h avec David Doucan.
Europe 1, il est 7h35.
Une grande victoire pour Cédric Herrous, ce sont les mots de son avocat après la décision de la Cour de cassation d'annuler sa condamnation.
Oui, la plus haute juridiction qui impose de respecter le principe de fraternité. Cet agriculteur qui avait écopé de 4 mois de prison avec sursis pour avoir aidé des migrants dans la vallée de la Roya, la Cour de cassation le renvoie devant la Cour d'appel de Lyon pour qu'il soit jugé. Cédric Herrous qui accueille toujours entre 10 et 30 personnes sur son exploitation et qui ne compte pas arrêter d'aider les migrants.
Souvent de dire, oui, Cédric Herrous, ce migrationniste, ce passeur de migrants. Moi, je suis juste paysan, quoi. J'ai une exploitation agricole et j'ai des gens qui sont autour et qui sont fatigués, qui sont blessés. J'ai ouvert ma porte, c'est tout. Après, c'est pas de notre faute. Si dans la vallée de la Roya, c'est le bordel complet, quoi. C'est quand même dingue. Chez moi, il y a eu plus de 2500 personnes qui sont passées dans une ferme. Et ça, c'est pas normal. Le travail que je fais, c'est le travail de l'État, quoi. C'est pas un citoyen de le faire.
Cédric Herrous avec Romain Okay. Et puis en sport, Lyon qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions après son nul un partout face au Shakhtar Donetsk, un but signé Nabil Fekir côté lyonnais. Et puis à l'Euro de handball, les Françaises sont en demi-finale. Elles affronteront les Pays-Bas demain à 21h à Paris-Bercy.
Merci Céline Kallmann pour le journal de 7h30. N'hésitez pas à réagir sur la pondeur de la matinale au 39-21.
Oui, également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Et il est 7h36.
Maître Apathy, bonjour.
Bonjour Nikos.
Bon, alors évidemment, l'actualité est lourde, mais oui. on ne peut pas ne pas l'analyser, essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce nouvel attentat à Strasbourg relance le débat. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils lutter plus efficacement contre le terrorisme ?
On peut toujours améliorer la lutte contre le terrorisme, mais on a tort de qualifier de polémique les commentaires qui suivent les attentats, parce que ça nous aide à réfléchir et à essayer d'apporter des réponses toujours plus efficaces à ce fléau.
On va aller plus loin avec vous, Jean-Michel Apathy, sur Europe 1 dans quelques instants. À tout de suite.
Il est 7h38, Nikos Aliagas. L'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Jean-Michel Apathy, il s'appelle Chérif Chekat, il est l'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg. Il court toujours, on l'a dit, il était fiché S, il s'est radicalisé en prison, vraisemblablement. Et quand on regarde les faits, on a l'impression que les pouvoirs publics sont démunis face à ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant la radicalisation. C'est rentré dans notre vie.
Oui, alors c'est rentré dans notre vie, oui, comme un attentat est un vrai traumatisme. On a l'impression qu'on ne peut rien, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Alors, parlons des fichés S. D'abord, pratiquement tous les auteurs d'attentats sont fichés S. Les terroristes ne viennent pas de nulle part. Ils ont une histoire et ils sont repérés par les services de sécurité. Donc ça, c'est quand même assez important. Bien sûr, la polémique naît, ou les questions naissent du fait que à quoi ça sert de ficher quelqu'un si on n'est pas capable d'empêcher le passage à l'acte. À cela, il faut répondre deux choses. D'abord, depuis 2013, les pouvoirs publics disent avoir déjoué une cinquantaine d'attentats, ce qui est énorme si l'on y réfléchit bien. Si notre société avait connu 50 attentats qui ont été déjoués...
On n'aurait pas été là,
oui. Oui, nous serions dans une situation absolument désastreuse. Donc, ces fichiers ont une efficacité. Et puis, il y a ce qui est hélas, passe à l'acte. On n'arrive pas à empêcher ce passage à l'acte. Alors, on n'écoute pas toujours dans les polémiques les propositions qui sont faites, mais qui sont intéressantes. À partir de ces fichiers S, est-ce qu'il faut imaginer un jour, de manière préventive, écarter les plus dangereux, les confiner quelque part, les éloigner administrativement avant qu'ils n'aient commis un acte ? Et il y a aussi la proposition très difficile à mettre en œuvre, mais sur laquelle il faudrait réfléchir, d'éloigner les fichiers S d'origine étrangère. Donc, on voit qu'on peut progresser là-dessus. L'autre problème que nous avons se situe dans les prisons. Vous l'avez dit, Chérif Chekat s'est radicalisé en prison. Alors évidemment, quand on entre en prison, des détenus de droit commun, c'est pour protéger la société de leurs agissements, et voilà qu'on les plonge dans un bain qui va les rendre plus dangereux qu'ils n'étaient par la radicalisation islamiste. L'administration pénitentiaire travaille beaucoup sur ces questions, et depuis quelques années développe un vrai savoir-faire. Bien sûr, ce sont des matières extrêmement complexes, donc il n'y a pas de résultat évident. Mais les autorités connaissent le problème, l'ont repéré et commencent à fabriquer des réponses. Et puis, il y a l'autre difficulté, toujours à propos des prisons. L'année prochaine, 300 à 400 individus radicalisés, des islamistes radicalisés, vont sortir des prisons et aller, comme ça, dans la nature, dans la société française.
Parce qu'ils auront purgé leur peine.
Voilà, il faut le dire. C'est-à-dire, nous sommes dans un état de droit. Ça ne sert à rien de dire démocratie, démocratie, si ensuite nous n'en respectons pas les règles. Ils ont purgé leur peine, ils sortent. C'est angoissant comme perspective, mais bon, voilà, c'est la vie et l'appareil de sécurité doit les surveiller. Ils n'ont pas toujours les moyens de le faire, évidemment. Et donc, c'est une menace avec laquelle il faut vivre. Ce tableau est sombre, d'une certaine manière, mais il y a des points d'appui, des choses qui existent et qui sont efficaces. D'abord, hélas, depuis 20 ou 30 ans, l'appareil de surveillance français a développé un vrai savoir-faire, une vraie efficacité, et la coopération européenne est très bonne. Donc, c'est une base solide de lutte contre le terrorisme. La disparition relative de Daesh, c'est-à-dire les actions militaires que nous avons menées loin, qui sont difficiles à mener, ont aussi isolé ici psychologiquement et quelquefois matériellement des apprentis terroristes. Et puis, troisième point d'appui, derrière les apparences de polémique, il y a quand même en France un consensus pour la lutte contre le terrorisme qui permet à la fois de débloquer des moyens financiers et de faire évoluer la législation. La lutte contre le terrorisme, c'est une lutte longue dans laquelle il ne faut pas s'épuiser. Il y faut des décennies, mais nous avons les moyens de la gagner.
Jean-Michel Apathy, sur Europe 1, c'est tous les jours à 7h40. À présent, c'est vous qui le dites. Vous me laissez vos messages au 3921. Chères auditrices et auditeurs, et vu la menace terroriste, l'exécutif appelle les Gilets jaunes à ne pas manifester samedi. C'est aussi l'avis de Xavier de Rouen. On écoute son témoignage.
Ça doit changer. Je pense que les regroupements en région parisienne et sur Paris doivent être arrêtés vu la menace terroriste, parce que je pense que ces gens-là vont certainement ne pas s'arrêter là et profitent d'un mouvement de foule pour se fondre dans la masse. Je pense que nos forces de l'ordre sont épuisées. Ils ont autre chose à faire que ce qu'ils font avec les casseurs et tout ça, même si c'est des forces de police différentes qui sont sur les manifestations ou comme là, la tempête à Strasbourg. Mais je pense qu'il faut faire évoluer et arrêter d'embêter le contribuable et arrêter d'embêter nos forces de l'ordre comme on le fait.
C'est vous qui le dites, c'est votre espace. Hein. Vous pouvez vous aussi réagir à l'actualité et laisser votre message à Nikos au 39 21. Europe 1.
Il est 7h43, Nicolas Saliagas.
On va continuer à évoquer, Céline Dacosta, cette difficile question de la radicalisation avec mon invité, le criminologue Alain Bauer, avis d'expert dans un instant sur Europe 1, juste après ça.
Il est 7h44, les principaux titres à retenir ce matin, Nicolas Saliagas.
La mort d'un gilet jaune de 23 ans, percuté cette nuit par un poids lourd à un rond-point, ça s'est passé à Avignon. C'est le sixième mort depuis le début du mouvement. Le conducteur du camion, âgé de 26 ans, a été placé en garde à vue. La police nationale a lancé un appel à témoins pour retrouver le suspect de l'attentat de Strasbourg, Chérif Chekat. Il est né à Strasbourg, il est fiché S, le jeune homme de 29 ans, a un passé judiciaire très lourd, avec déjà pas moins de 27 condamnations. Et puis un mot de football, Lyon qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions, les partenaires de Nabil Fekir, buteur, ont accroché le Shakhtar Donetsk hier soir, un partout à Kiev.
Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin le professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers à New York et à Shanghai, Alain Bauer.
Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Chérif Chekat est toujours en fuite ce matin. Il faut remonter à janvier 2015 à la traque des frères Kouachi pour connaître une telle course contre la montre. Elle aura duré quoi, 53 heures ?
Oui, en général, ça dure 2 jours, 3 au maximum, avant que soit ça s'étale dans le temps, comme Redouane Faïd. Des semaines de travail, soit que ça s'accélère, comme c'était le cas à Trèbes, où là, en quelques heures, le dénouement a eu lieu.
Dénouement tragique aussi.
Ah, ils sont en général tragiques.
500 policiers, 200 gendarmes sont mobilisés, 700 personnes. Pourquoi on n'arrive pas à le trouver plus tôt ?
D'abord parce qu'il connaît très bien son territoire, et le territoire de la cité en question est un territoire aussi complexe que n'importe quelle cité urbaine, avec des coins, des recoins, des passages. Il a ensuite une imprégnation forte avec des solidarités locales. C'est un criminel avec un gang. D'ailleurs, le jour de la perquisition en question, il n'était pas le seul visé par cette opération. Ils étaient 5. Il est le seul à avoir réussi, non pas à s'échapper, mais à ne pas être présent sur les lieux de cette opération. Et donc, il y a des solidarités, des amitiés, des capacités, et chacun le voit comme le copain criminel du quartier.
Alors, mais est-ce que c'est d'abord un criminel avant
c'est
d'être
essentiellement un criminel, voilà, avant comme beaucoup de ceux qui sont apparus depuis Khaled Kelkal. Pendant longtemps, on a eu des politiques qui passaient à la violence, c'était
leurs revendications. Des idéologues.
Voilà, et donc ils faisaient les plus grands efforts pour ne pas être confondus avec ce qu'on appelle les droits communs. Ils demandaient des espaces précis en prison. Il expliquait qu'ils n'étaient justement pas des criminels, mais autre chose. Depuis Khaled Kelkal en 1995, puis Mohamed Merah en 2012, il y avait une série très importante de purs criminels qui passent au terrorisme comme une voie de rédemption, de réhabilitation, parce que c'est simplement plus sympa d'être un militant qu'un délinquant.
C'est ce qui se passe avec Chérif Chekat, parce qu'au départ, il avait 27 condamnations pour des faits de droit commun.
Absolument.
Et finalement, il s'est radicalisé en prison en 2016. Et c'est un thème qu'on essaie de comprendre, c'est un fait qu'on essaie de décortiquer depuis plusieurs jours. Est-ce qu'on peut empêcher la radicalisation en prison, Alain Bauer ?
Une prison, d'abord, c'est un incubateur. Donc, ça dépend ce qu'on fait de la prison. Nous, notre logique, c'est que la prison, c'est d'abord une punition et pas une réinsertion. C'est notre culture, et ça n'est pas les seuls d'ailleurs, mais nous avons des prisons fermées, dures et violentes, parce que c'est un espace d'expression de la vengeance de la société contre ceux qui l'ont défié en faisant des victimes. Et donc, nous avons d'abord une logique qui est la punition. C'est notre culture et pas la réinsertion. D'autres pays utilisent des méthodes assez différentes en essayant d'éviter d'abord la réitérance ou la récidive et ensuite en s'occupant de la punition. Il se trouve que chez nous, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, la prison écrème entre des gens qui n'ont rien à y faire mais qui sont... parce que notre système, c'est prison pour tout et pour tous, et qu'il fonctionne donc d'une manière très étrange. Pendant très longtemps, on est condamné à rien. Puis tout d'un coup, nul ne sait pourquoi, on passe directement de la case sursis, où il ne faut pas recommencer, à la case prison ferme. Et là, elle devient très souvent ce qu'on appelait l'école du crime. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Victor Hugo, ça ne date pas d'hier. Mais il y a un processus d'incubation, et donc il y a deux catégories de gens, les victimes de la prison et ceux qui en servent comme échelle sociale, un glissement vieillesse-technicité du crime qui leur permet de s'élever au rang de caïd ou d'être très fiers d'être des sortants de prison. C'est le cas de l'individu dont nous parlons.
Chérif Chekat, alors l'année prochaine, les prisonniers radicalisés seront placés dans des quartiers de prise en charge dédiés. C'est ce que annonce le Premier ministre qui a promis la création de 400 places étanches. C'est suffisant ?
Bon, on a essayé à peu près tout. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la radicalisation. Ce terme ne veut rien dire, il n'a aucune définition.
Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire en tant que criminologue ?
Rien.
Ça veut dire quoi ?
Rien. Un radical en France, c'est un vieux monsieur à barbe blanche très laïque.
D'accord. Qui a créé qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Qu'est-ce
qu'on pourrait dire ? Un radical en Angleterre, c'est quelqu'un qui casse des machines pour D'accord. protéger la classe ouvrière. Et un radicalisé en France, c'est quelqu'un qui est juste très énervé.
D'accord. Voilà. Donc, on doit dire quoi pour comprendre ?
Djihadisé, parce que c'est le sujet. Le sujet, et les mots, on a peur de dire des choses. On a peur de dire criminel.
Parce que les politiques récupèrent en fait ces termes.
Non, ils sont en posture, mais c'est leur nature leur après tout. Ils sont là pour
ça. Donc pour vous, il ne faut pas dire radicalisé, il faut dire un djihadiste.
Djihadisé, bien sûr. Ou djihadiste. Djihadiste, c'est celui qui a déjà commis des actions à caractère djihadiste en allant sur place ou en commettant des activités de financement, d'aide au passage, voire même d'avoir été complice ou auteur d'attentats. Des djihadisés, c'est des gens qui sont en train de passer au djihad, c'est-à-dire à une forme active et pas seulement prosélyte, une forme violente d'action en proclamant qu'ils vont y passer. Donc on est dans un processus clairement identifié. D'ailleurs, ils en sont fiers. Je ne vois pas pourquoi nous déciderions à leur place du nom qu'ils doivent se donner.
Du côté des politiques, Laurent Wauquiez, mais aussi Marine Le Pen, réclame plus de sévérité à l'encontre des individus radicalisés ou djihadisés, comme vous dites. Alain Bauer, il demande notamment l'expulsion des fichiers S étrangers et binationaux. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? Vous en pensez quoi ?
Alors, pour les étrangers, c'est parfaitement possible. Il suffit que les parlementaires qu'ils sont, pour l'une, ou le patron d'un grand parti d'opposition pour l'autre, déposent un texte. Ils se rendront compte assez rapidement des problématiques. Et s'ils ne l'ont pas fait quand ils étaient l'un au pouvoir, l'autre qui espère le faire, c'est qu'il y a des raisons. Et donc ça c'est un problème. Quant aux binationaux, la question a déjà été résolue. Un binational est d'abord un national. Et donc la déchéance de nationalité est un chemin qui a montré ses limites avec le président Hollande et qui montrera exactement les mêmes limites avec n'importe qui d'autre.
Mais est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut reconsidérer justement le statut de la nationalité ?
Vous pouvez vous poser la question de pourquoi quelqu'un qui a été condamné 27 fois, dont déjà une fois pour tentative d'homicide, qui était recherché pour une autre tentative d'homicide, était encore dehors. Ça, oui, vous pouvez vous la poser véritablement. Mais dans cette affaire, les services de police ou de renseignement l'ont suivi, identifié, surveillé, raté, mais au moment où ils allaient l'arrêter. Donc, on peut leur faire quelques reproches, mais certainement pas tous les reproches. Il y a simplement un processus général de révision de notre politique pénale entre ce qu'on fait de trop, c'est-à-dire de supprimer la prison pour tout, et pour tous, donc la prison pour rien, et de choisir véritablement des dispositifs très clairs, notamment de revisiter par exemple la rétention de sûreté pour des gens qui ont été condamnés pour des faits qui ne sont pas tous liés au terrorisme, c'est son cas, et qui, devenant djihadisés et prosélytes violents en prison, pourraient être amenés à ne pas sortir dans les mêmes conditions que ce qui est prévu par la loi ordinaire. Voilà. On l'a fait pour d'autres types
même
de sujets.
Même quand la peine est purgée, en fait.
Même quand la peine est purgée, parce qu'il y a des sujets sur la dangerosité et le risque qui rentrent. C'est un sujet apolémique, controversé, mais qui nécessite que les magistrats, les avocats, les défenseurs des droits de l'homme, et je précise que dans Défense des droits de l'homme, il y a aussi ceux des victimes qu'il faudrait cesser d'oublier en ne s'occupant que des auteurs présumés.
Merci Alain Bauer d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers à New York et à Shanghai et auteur d'un livre intitulé « Comment vivre au temps du terrorisme » aux éditions First. Merci d'avoir été avec nous.
Vous pouvez réagir en nous appelant au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h52.
À suivre, le Zoom Echo avec Axel de Tarlé. L'exécutif va donner 100 euros de plus aux salariés qui touchent le SMIC. Et pendant ce temps, l'Espagne augmente son salaire minimum de 22%. Il nous explique tout, Axel de Tarlé, juste après ça.
Il est 7h55, l'heure du Zoom Echo. Nico Saliagas avec Axel de Tarlé.
Et le SMIC qui va augmenter de 22%. En Espagne, c'est nettement plus que les 100 euros que nous proposait il y a quelques jours le président de la République. Comment font les Espagnols et pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous, Axel de Tarlé ? Dites-nous.
Alors je confirme, une hausse de 22% du SMIC en France, ça le porterait à plus de 1800 euros brut. Alors que, bon, en Espagne, ce qui se passe, c'est qu'ils partent de nettement plus bas. En Espagne, le SMIC est à 858 euros. Au point d'ailleurs qu'en Espagne, en fait, ce SMIC espagnol est très éloigné de la réalité des salaires. Je ne veux pas être technique, mais en Espagne, le SMIC est à 40% du salaire médian, alors qu'en France, c'est 60%. Donc vous voyez, il était temps de remettre un peu les pendules du SMIC à l'heure en Espagne. Donc le SMIC va augmenter, enfin il passe à 1000 euros contre 1005 chez nous. Il n'empêche, Nikos, vous avez raison. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose chez nous ? Pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas le SMIC de 22% comme ça, brutalement ? Oui. Et bien la réponse, c'est que c'est une question de compétitivité. C'est un hasard, Mais dans les deux pays, en France et en Allemagne, on a exactement le même SMIC à l'euro près. Dans les deux pays, il est à 1498 euros. Et donc, on comprend bien que si on augmente le SMIC de 22% en France et pas en Allemagne, eh bien le Made in France sera 22% plus cher que le Made in Germany. Et donc, il aura du mal à se vendre. D'ailleurs, on voit bien là notre problème de compétitivité. La France a les mêmes coûts de production que l'Allemagne, c'est le même SMIC dans les deux pays, alors que la qualité du Made in France, je ne veux pas être méchant vis-à-vis de nous, mais elle est jugée inférieure. Tandis qu'en Espagne, les coûts, le SMIC, ils sont nettement plus bas. C'est l'économiste Patrick Artus qui résume la situation en Europe avec cette formule ravageuse. Il dit « Le Made in France, ce sont les prix allemands, mais la qualité espagnole ». D'où, vous voyez, la difficulté d'augmenter encore les salaires chez nous. Et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron n'a pas directement augmenté le SMIC. Il a augmenté la prime d'activité, qui est une aide payée par l'État. Mais le SMIC français, lui, ne bougera pas. Enfin, il sera juste revalorisé le minimum de l'inflation au 1er janvier.
Claire, pédagogue, vous savez, Axel de Tarlé, que vous avez des auditeurs en Espagne qui vous écoutent.
Ah bah oui, ah bah voilà, ils vont être augmentés, plus 22%.
Mais c'est vrai, un jour, je vous ai un peu coupé, je vous ai un peu poussé parce qu'on n'avait pas le temps, j'ai reçu un mail de protestation d'un auditeur espagnol.
Voilà. Eh bah, gracias.
De nada, compañero, Axel de Tarlé.
7h57, on passe la petite histoire du jour avec Jean-Philippe Ballas.
Vous savez quoi, c'est tous les jours avant le journal de 8h et ce matin... Jean-Philippe, vous nous donnez votre recette face aux adeptes de la théorie du complot. On a tout entendu ces dernières heures.
Oui, parce que vous savez quoi, en vrai, l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Ça, les amis, on est d'accord, c'est le grand tube des complotistes, indémodable. Et si je vous en parle ce matin, c'est qu'aux États-Unis, une star a entonné ce bon vieux refrain il y a quelques jours. La star en question est joueur de basket à la NBA, il s'appelle Stephen Curry. Il a émis quelques doutes lors d'une émission à la radio, suffisamment pour enflammer la toile illico. Houston, on a un problème. Et plusieurs façons de le résoudre. Scénario 1, vous pouvez jouer la colère, l'indignation. Oh, bonne grosse colère. Scénario 2, vous pouvez jouer le silence, un peu gêné. Voilà, ça c'est un silence un peu gêné. Scénario 3, vous pouvez citer les grands auteurs qui font référence à l'espace, justement. Michel Audiard, par exemple.
Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et merci Jean Gabin. Ou alors, vous pouvez être beaucoup plus finaux et jouer la pédagogie. Et c'est précisément le choix de la NASA qui prend cette affaire très au sérieux. Parce que oui, Stephen Curry, chaque fois qu'il ouvre la bouche, forcément, tous les gamins l'écoutent. Et c'est ainsi que l'agence américaine a publié un communiqué, tout ce qu'il y a de plus courtois, pour inviter la star à Houston et constater de visu que toutes les roches lunaires amassées depuis des années n'ont pas été trouvées au fond d'un œuf Kinder. Et depuis, Stephen Curry a rectifié le tir en disant qu'il blaguait et qu'il se réjouit à l'idée de visiter la NASA. Bref, vous savez quoi ? Les complots, c'est quand même parfois assez lunaire.
Oh, c'est bon ça. Mais si ça peut nous permettre d'écouter de la bonne musique sur dans la matinale, je signe. The Police, Walking on the Moon, pour illustrer vos propos, Jean-Philippe Ballas. La petite histoire garantie, sans fake news. C'est tous les jours avant 8h.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo, Nikos.
Mon cher Laurent Cabrol, il y a les températures et puis il y a les températures ressenties. Expliquez-nous la nuance.
Bah, on tient compte du vent quand on parle des températures ressenties, parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Et si je me suis amusé à calculer quelques villes, Bourges, il fait moins 9 en tenant compte du vent, moins 8 à Château-Chinon et à Châteauroux, moins 7 à Nancy, à Pontoise, à Nevers, moins 6 à Blois, moins 5 même à Cherbourg et à Orly, et moins 3 degrés à l'intérieur de Paris. Vous voyez que les températures sont totalement différentes et que certaines villes ont un écart de 5 degrés entre la température sous abri et le ressenti. Par exemple, Abbeville, Beauvais, Lille, Rouen, Cambrai sont des villes où, simplement en sortant de la maison et en prenant un petit coup d'air, un petit coup de rafale de vent, eh bien vous perdez 5 degrés. Boum, d'un seul coup. Mm-hmm. Alors, en ce qui concerne la couleur du ciel, ma foi, je la résumerai en un mot. Tout ce qui concerne les villes ou les régions qui sont proches de l'Atlantique, il pleut. Et il pleuvra aussi à l'intérieur, le Midi-Pyrénées, le Limousin, le bassin méditerranéen et la basse vallée du Rhône seront touchés par les pluies. Ailleurs, notamment sur Paris, le temps sera sec.
Voilà. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et bienvenue sur Europe 1 ce jeudi 13 décembre. Il est 8h, très bon réveil.
Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Audrey Crespo-Mara recevra la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, dans 15 minutes. Le journal de 8h est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
L'ennemi public numéro 1 s'appelle Shérif Shekat. Il mesure 1m80, cheveux noirs, teint mat, avec une marque sur le haut du front. La police a lancé un appel à témoins. Le tueur présumé reste pour l'instant introuvable. Le parcours meurtrier est aujourd'hui connu. Deux personnes assassinées en plein centre de Strasbourg. Une autre est dans un état de mort cérébrale. Il s'appelle Kamal. Il avait fui la guerre d'Afghanistan. Il a été touché d'une balle dans la tête devant sa famille. La France est donc une nouvelle fois ensanglantée. Le suspect est dans la nature. Dans ce contexte, que vont faire les gilets jaunes? Manifester samedi ou s'abstenir? Les syndicats de police les appellent à faire une pause.
Europe 1.
Comment Shérif Shekat a-t-il pu s'échapper mardi soir? Vous le savez, il échange une première fois des tirs avec les soldats de Sentinelle. C'était dans le centre de Strasbourg. Ça ne l'arrête pas. Il force un taxi à l'emmener dans le quartier de Neudorf. Là, à deux reprises, il tire sur des policiers qui ripostent et pourtant il parvient à disparaître. Arthur Mbaché, bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes en direct sur place pour Europe 1. Il s'avère, Arthur, que c'est dans ce secteur du Neudorf que Shérif Shekat a passé toute son enfance.
Et quand il descend du taxi à Neudorf, rue d'Épinal, avec sa blessure au bras, Shérif Shekat a une idée claire en tête, David, refaire ce qu'il maîtrise parfaitement depuis qu'il a 12-13 ans, semer les policiers dans les jardins du quartier de son enfance. À 200 mètres de là, au fond d'une impasse, il y a une maison, aujourd'hui en travaux. Le fugitif strasbourgeois y a vécu une quinzaine d'années, la période de ses premières armes de délinquant. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs dit hier que dès l'âge de 10 ans, il avait un comportement qui relevait du pénal. Eh bien, dans le quartier, on nous raconte les descentes de police régulières et les prouesses de ce gamin, de ses frères et de leurs copains pour escalader les grillages, se glisser sur le toit d'un garage, se cacher dans une cabane un moment, échapper aux forces de l'ordre. Malgré son bras blessé avant-hier soir, Shérif Shekat a apparemment refait le coup, comme à l'époque où il vivait ici avec sa mère, sa sœur et ses trois frères, dont l'un aujourd'hui en garde à vue, s'était fait remarquer dans le quartier puisque après les attentats de Paris, il s'était mis à porter barbe et djellaba.
Merci Arthur Mbaché, vous étiez en direct de Strasbourg pour Europe 1. La frontière avec l'Allemagne est verrouillée, chaque véhicule est systématiquement fouillé. En tout, 720 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les autorités ont donc, je vous le disais en titre, lancé un appel à témoins. Toute personne en possession d'informations est invitée à composer le numéro 197.
Voilà pour le suspect. On va parler maintenant des victimes, David Doucan.
Oui, on déplore 2 morts, 12 blessés, dont 6 sont toujours en urgence absolue. Et puis, il y a Kamal, ce quadragénaire, père de famille d'origine afghane. Il avait obtenu la nationalité française. Mardi soir, Shérif Shekat a visé la tête. Et Kamal est aujourd'hui en état de mort cérébrale. Pierre Herbulot.
Il a fui la guerre en Afghanistan. Il va mourir en France d'une balle dans la tête. Kamal a 30 ans quand il débarque à Strasbourg en 2004 avec ses parents. C'est un nouveau départ, il se marie, fait des enfants, 2 garçons, 1 fille et monte son entreprise, un garage automobile dans le quartier de la Méno. Un vrai dingue de travail très professionnel, c'est là qu'il était heureux, raconte l'un de ses proches à l'hôpital. Ils ne sont pas moins d'une centaine à se succéder à son chevet hier, amis, voisins ou encore cousins. Comme David.
C'était un très bon vivant, c'était quelqu'un qui a fait du mal à personne, sur qui on pouvait compter, qui aidait les gens au quotidien, c'était une personne dynamique. C'est dégueulasse, c'était pas le moment pour lui. C'est tragique parce que ça arrive devant sa femme et ses enfants. Et ça, je vous dis, c'est inhumain. Une personne qui est constituée normalement, quelle que soit la religion, ne doit pas faire ça.
La religion, partie intégrante de la vie de Kamal, il fréquentait assidûment la mosquée de Strasbourg. La quarantaine passée, il avait toujours un physique de sportif, grâce au volley, au foot et à la piscine où il allait tous les dimanches matins avec ses enfants. C'est pour eux qu'il était au marché de Noël au moment de l'attaque, pour leur montrer la beauté des décorations.
Pierre Herbulot pour Europe 1.
Et la menace terroriste vient percuter la crise sociale que traverse notre pays, David Doucan.
Oui, à l'exception de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, c'est la quasi-totalité de la classe politique qui appelle les Gilets jaunes à ne pas réitérer leur manifestation samedi prochain. Le week-end dernier, 89 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés. Est-ce possible de recommencer alors qu'un terroriste présumé est dans la nature? Même le syndicat Unité SGP Police qui, vous vous en souvenez, soutenait les Gilets jaunes au début du mouvement, répond non. Écoutez l'un des secrétaires nationaux de ce syndicat, Ahmed Korbosli, au micro européen de Stéphane Place.
Malheureusement, ça va encore plus créer de tensions au sein des forces de l'ordre. Mais on espère qu'il n'y aura pas d'acte 5, surtout même si de manière générale, on arrive à faire un turnover. N'empêche que les collègues là sont fatigués, ils sont tous très fatigués, ils sont tendus, ils ont besoin de repos, on les rappelle sur leur repos. Aujourd'hui, c'est des rappels incessants.
Et puis, on l'apprend ce matin, un manifestant portant un gilet jaune est décédé cette nuit à Avignon, dans le Vaucluse. Il a été percuté par un camion. Selon les informations de Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1, le conducteur, un routier polonais de 26 ans, avait refusé de se soumettre à un barrage. Il a ensuite pris la fuite. Arrêté un peu plus tard, il est désormais en garde à vue. L'homme qui a été tué avait 23 ans. C'est le sixième mort que l'on déplore depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes.
Les policiers fatigués, la menace terroriste, mais aussi les mesures annoncées par Emmanuel Macron.
David. Oui, le président a promis une douzaine de milliards d'euros de dépenses publiques en faveur du pouvoir d'achat au risque, et c'est désormais assumé, de faire déraper le déficit. Alors, pour limiter la casse, le gouvernement réfléchit très sérieusement à aller chercher l'argent du côté des entreprises. Les explications d'Anne-Laure Jumet.
Les grandes entreprises doivent prendre leur part, c'est une question de justice sociale. Voilà ce qu'on dit en ce moment à Bercy, qui a bien entendu l'un des messages portés par les Gilets jaunes. Il faut que les plus riches contribuent. Or, les grandes entreprises devaient bénéficier l'an prochain d'un avantage fiscal, une baisse de l'impôt sur les sociétés. Eh bien, selon nos informations, la piste qui est très sérieusement étudiée en ce moment, c'est de reporter d'un an cette mesure. En plus de répondre aux Gilets jaunes, ça présente le grand avantage d'économiser des sommes importantes, 2,5 milliards d'euros, soit le quart du financement à trouver pour honorer les annonces faites par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Alors l'idée, c'est bien de jouer sur le calendrier sans casser la politique pro-entreprise. C'est pour cela que si cette piste se confirmait, l'objectif resterait inchangé avec un taux d'impôt sur les sociétés à 25% à la fin du quinquennat.
Information signée Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans le journal, la vie trépidante de Theresa May. La première ministre britannique a survécu hier soir à son propre parti d'ailleurs, mais pour combien de temps ? Réponse dans quelques instants dans le journal de 8h avec David Doucan.
Il est 8h09, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Le journal de David Doucan avec Theresa May qui a sauvé sa tête hier soir.
Oui, elle a gagné une bataille. Le vote de défiance organisé par son propre parti n'a pas recueilli la majorité au Parlement. Cependant, ce sont tout de même un tiers des députés conservateurs qui ont voté pour la désavouer. Voilà qui la met en position de faiblesse alors qu'elle ira aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet européen dédié au Brexit. Dans ce contexte de blocage, une idée ressurgit au Royaume-Uni avec de plus en plus de force, celle d'un second référendum. Un million de Britanniques a signé une pétition le réclamant. Reportage de notre envoyé spécial à Londres, Sébastien Krebs.
Il y a encore quelques mois, cette hypothèse paraissait totalement farfelue. Aujourd'hui, face au blocage, elle fait partie des possibles scénarios de sortie de crise. Un second référendum, c'est ce que défend depuis longtemps Justin, venu crier sa colère, drapeau européen en main, au pied de Big Ben.
On vit un cauchemar, ça pourrait très très mal finir. Les politiques ne pensent qu'à eux. Il est temps de se réveiller et de faire du bruit.
Un nouveau vote du peuple, c'est la seule option possible, défend cette prof d'anglais. Theresa May a toujours écarté cette option, mais certains de ses ministres s'y sont ralliés et presque 60% des Britanniques, selon un sondage qui dit aussi qu'il serait aujourd'hui une majorité à vouloir revenir en arrière. C'est tout l'espoir de ce chef d'entreprise, Praful Nargund.
Il y a eu un basculement dans l'opinion. Les gens estiment que ce n'est pas ce qu'on leur a promis. Quel que soit l'accord, on sera perdant. Et maintenant qu'on le sait, il faut en finir, en organisant un référendum au plus vite.
Encore faudrait-il définir quelles questions seraient posées et trouver là encore une majorité au Parlement pour déclencher ce retour aux urnes. Londres, Sébastien Krebs, Europe 1.
Et à 8h12, Vincent Herouet reviendra sur le Conseil européen avec Theresa May, un conseil qu'il qualifie de sommet des éclopés. Il nous dira pourquoi dans quelques instants.
Un accident de train est survenu tôt ce matin à Ankara, en Turquie. 7 personnes sont mortes. Le bilan vient de s'aggraver. Une passerelle s'est effondrée sur une rame à grande vitesse. Au moins 2 wagons ont déraillé.
Et Europe 1, vous l'annoncez il y a déjà plusieurs semaines, je crois que c'était le mois dernier, Michel Houellebecq publie son nouveau roman le 4 janvier prochain.
Oui, le titre ce sera Sérotonine, c'est le nom d'un neurotransmetteur associé à l'état de bonheur. La promotion de cet événement littéraire est savamment orchestrée. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour David.
Alors c'est très particulier Nicolas, l'éditeur vous a remis
un exemplaire du livre, mais vous vous êtes engagé à ne rien en dire.
Écoutez, c'est la première fois que je fais ça. Je suis allé chez l'éditeur hier pour récupérer mon exemplaire, accompagné de cette note qui nous demande très solennellement, ce sont les mots de l'éditeur, de respecter un embargo fixé au 27 décembre. C'est-à-dire donc que je ne peux rien vous dévoiler de l'intrigue, même pas vous lire la première phrase qui donne pourtant superbement le ton du livre. Je peux quand même vous dire qu'il pèse 347 pages et qu'il est tiré à 320 000 exemplaires. C'est considérable. Et quant au titre, c'est Sérotonine, donc c'est le neurotransmetteur associé à l'état de bonheur. Mais quand on a lu même un seul roman de Michel Houellebecq, bon bah on se doute que ce sera pas un feel good book. Alors pourquoi tant de discrétion? Simplement parce que Houellebecq est à part dans le paysage littéraire. Je demande parfois aux écrivains étrangers que je croise de me citer des écrivains français contemporains vivants. Il n'y en a qu'un. Un seul, à tous les coups, Michel Houellebecq. Après, il me parle de Camus, de Proust ou de Flaubert, mais je leur rappelle qu'ils sont morts et que c'est pas du jeu. Donc oui, qu'on l'aime ou non, c'est un écrivain qui compte pour son époque. Son éditeur Flammarion le sait et il le soigne. Il lance donc son prochain roman comme ce qu'il est, c'est-à-dire l'événement littéraire de la rentrée d'hiver.
Merci à vous, Nicolas Caron. On précise, pour tout le monde ne parle pas anglais, un feel-good book, un livre qui voilà, permet de bien se sentir.
Qui fait voilà, du bien, qui fait ça. Du bien. Merci Nicolas Caron et merci David Doucan pour le journal de 8h.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et à 8h13, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette.
On en parlait, Conseil européen ce soir à Bruxelles, et vous dites, Vincent Hervouette, c'est le sommet des éclopés.
Oui, mais des éclopés triomphants, c'est un vrai concours de survivants. Alors dans le tiercé-tête, il y a effectivement Theresa May, elle a failli être répudiée hier soir. Toute la semaine, en fait, elle s'est fait lyncher. Lundi, par les députés outragés qu'elle renonce in extremis à leur faire voter l'accord sur le Brexit. Ils ne l'auraient pas voté, mais justement, ils sont frustrés qu'elle ait échappé à cette humiliation. Mardi, elle a couru en vain le continent pour retoucher l'accord maudit. La presse s'est moquée en disant qu'elle s'était enfuie. Berlin, Bruxelles, La Haye lui ont claqué la porte au nez. Elle n'a même pas sonné à l'Élysée. Hier, enfin, c'est en jurant de prendre bientôt sa retraite qu'elle a obtenu un ultime sursis. Chapeau l'artiste. Ce soir, elle fera une apparition au Conseil européen. Ça tombe bien, c'est un Premier ministre fantôme. Elle ne fera jamais voter son Brexit. On peut croire au Père Noël, pas à Mère Theresa May. Alors, au sommet des éclopés, le plus tonitruant, c'est l'italien. La Commission avait rejeté son projet de budget pour 2019 et sorti la boîte à claques. Hier soir, Rome a ramené ses prévisions de 2,4 à 2,04. Applaudissements général. On salue surtout les ministres Salvini et Di Maio qui dénoncent depuis lundi les cadeaux faits par Emmanuel Macron aux Gilets jaunes et s'indignent que la France fasse moins scandale que l'Italie. Cet opportunisme a payé. L'Italie va pouvoir creuser maintenant sa dette et Bruxelles regardera ailleurs. Enfin, la France, évidemment, elle est championne des Invalides ce soir. C'est un peu l'homme malade de l'Europe.
Et la colère des Gilets jaunes a choqué nos voisins, Vincent Hervouette, notamment les Allemands.
Oui, et la consigne est de sauver le soldat Macron. Il peut bien lâcher un pognon de dingue. Il faut calmer le jeu. Le déficit est annoncé à 3,4%. Paris prétend que c'est le prix à payer pour que les réformes continuent. C'est de la dialectique, c'est habile. La vérité crue, c'est que la confiance est atteinte. Évidemment, le président qui voulait refonder l'Europe mettait en avant ses comptes exemplaires. Cela n'a pas suffi à convaincre Angela Merkel. Eh bien, désormais, c'est trop tard. En 2019, il y aura une nouvelle Commission européenne, un nouveau Parlement européen et une Europe réduite à 27. Mais on ne voit vraiment pas qui pourra sauver le projet européen de la langueur dans laquelle il s'enfonce.
Le projet européen décrypté ce matin par Vincent Hervouette sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 8h15.
Restez avec nous dans deux minutes, l'interview politique avec vous, Audrey Crespo-Mara. Qui est votre invitée?
Eh bien, elle au moins est claire. Après l'attentat de Strasbourg, elle demande aux Gilets jaunes de ne plus manifester. Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France, sera mon invitée.
A tout de suite sur Europe 1. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Pardon. Vous voulez que les fichiers S pour radicalisation soient jugés pour intelligence avec l'ennemi. Alors en regardant dans le code pénal, j'ai vu que le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère est puni de 30 ans de détention criminelle. Vous voulez mettre tous les salafistes français en prison ?
Non. D'abord, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous sommes tous en deuil et nous sommes tous auprès des Strasbourgeois et des Alsaciens et nous espérons tous que les forces de l'ordre vont très vite mettre hors d'état de nuire le terroriste qui qui a frappé, qui est d'ailleurs plus qu'un terroriste, parce que c'est d'abord un criminel de droit commun, hein, 29 ans, 27 condamnations, mais c'est un criminel qui s'est radicalisé en prison. Donc ça nous interroge sur la porosité entre justement ce monde de la criminalité et ce monde de l'islamisme radical.
Quand vous dites que tous les fichiers S pour radicalisation doivent être mis hors d'état de nuire, alors c'est une formule choc, mais concrètement, vous faites comment pour mettre 12 000 fichiers S radicalisés hors d'état de nuire, si ce n'est pas les mettre en prison ?
Ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne peut pas mettre en rétention administrative sans passer par la case justice des milliers de personnes. Ça n'est pas possible. Nous sommes dans un état de droit. Il peut y avoir des erreurs judiciaires. Ces fiches S sont des fiches du renseignement antiterroriste. Ça ne vaut pas une enquête judiciaire. Donc il faut que le code pénal s'adapte. Il faut qu'on ait une réponse judiciaire. Il faut que la justice passe. Mais il faut qu'on puisse incriminer devant la justice des personnes qu'on sait radicalisées, qu'on sait dangereuses, avant qu'elle commette un attentat.
Et vous les mettez hors d'état de nuire, précisément.
Non, mais si c'est une incrimination du code pénal, ça veut dire que le juge pourra les placer soit en rétention judiciaire, c'est-à-dire chez elles, soit dans des centres fermés, soit en détention si elles sont particulièrement dangereuses. Pourquoi je dis qu'il faut faire cela ? D'abord, c'est symbolique. C'est parce qu'il faut qu'on ait un outil pénal supplémentaire pour pouvoir lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Et puis, parce que je crois que les Français ne comprennent pas qu'il n'y ait pas cette peine d'intelligence avec l'ennemi, parce que nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique qui nous a déclaré la guerre. Et donc il faut cette réponse.
Parmi les fichiers S, il y a des étrangers. Faut-il les expulser pour consacrer plus de moyens à la surveillance des fichiers S français ?
Il faut effectivement expulser les fichiers S radicalisés étrangers parce qu'ils sont dangereux et nous avons une procédure, dans la loi française, qui permet l'expulsion.
L'expulsion, vous réclamez finalement les mêmes mesures que Marine Le Pen.
Pardon. Mais il faut aussi, et il faut qu'on y travaille, aussi que les détenus étrangers qui sont dans les prisons françaises, compte tenu de la surpopulation carcérale, nous puissions avoir des accords avec leur pays pour qu'ils puissent purger leur peine dans leur pays d'origine.
Expulser les radicalisés, étrangers, aussi, c'est ce que demande Marine Le Pen, alors que vous avez reproché longtemps à Laurent Wauquiez de courir après Marine Le Pen. Finalement, vous faites la même chose aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, la différence est simple. Moi, je veux que la justice passe. Je veux que tout ça se fasse dans le cadre de l'état de droit. Je ne veux pas qu'on bafoue les droits des personnes.
Marine Le Pen le demande depuis un moment.
C'est pas parce que si Marine Le Pen dit qu'il fait beau, il fait peut-être
beau. Vous reprochiez à Laurent Wauquiez de courir après Marine Le Pen, mais finalement c'est la même chose.
La différence, elle est très claire, Madame Crespo-Mara. La différence est très claire. Il y a ceux qui demandent la rétention administrative sans passer par le juge, c'est-à-dire sans avocat, sans procédure judiciaire. Et il y a ceux qui disent c'est à la justice de dire le droit. Mais la justice doit être plus armée contre le terrorisme qu'elle ne l'est aujourd'hui. La justice et la police, d'ailleurs, parce que moi, par exemple, je réclame, et je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, qu'on puisse aussi installer des dispositifs technologiques de sécurité plus importants. Je demande qu'on puisse mettre de la reconnaissance faciale dans les gares, comme il y en a aujourd'hui dans les aéroports, qu'on puisse la mettre aussi dans les transports franciliens, de façon à ce qu'on puisse, quand on a quelqu'un de très dangereux, l'empêcher de prendre les transports et le repérer et pouvoir l'arrêter et l'appréhender de manière plus efficace. Des mesures de sécurité efficaces, beaucoup plus efficaces.
Suite à l'attentat de Strasbourg, Emmanuel Macron a décidé de mobiliser 1800 militaires supplémentaires pour assurer notre sécurité parce que la police et les gendarmes sont dépassés. C'est une bonne décision.
Bien sûr. Et moi, je voulais dire aujourd'hui aux forces de l'ordre tout mon respect. Parce que ce qu'elles vivent en ce moment, entre les manifestations, les pillages, les dégradations, les violences, mais aussi les lycées qui sont dans un état de violence qu'on n'a jamais vu. Et je parle en Ile-de-France... j'allais dire de visu, puisque je suis au chevet des lycées, c'est la région, vous savez, qui s'occupe
des lycées. Il y a de grosses dégradations en Ile-de-France.
1 500 000 euros de dégâts, mais surtout une communauté éducative très éprouvée et un risque pour les lycéens eux-mêmes. Et il faut savoir que les policiers, leur obsession aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de blessés graves.
Vous appelez donc à ne pas manifester samedi. Cet attentat, c'est une raison supplémentaire pour demander aux Gilets jaunes de ne pas manifester. Est-ce que vous appelez à une trêve sociale pour restaurer l'Union nationale ?
Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, compte tenu du risque attentat qui pèse, compte tenu de la période de Noël, qui est toujours une période à risque, je crois qu'il faut appeler à la responsabilité des Gilets jaunes. Il faut vraiment qu'il demande à ne plus manifester, à tous ceux qui pensent comme eux, il faut arrêter les manifestations.
Valérie Pécresse, on sent bien que Laurent Wauquiez n'est pas prêt de remettre un gilet jaune, puisqu'hier, il a très clairement appelé à ne pas manifester samedi. Vous ne trouvez pas que, qu'hormis vous, les Républicains ont un peu tardé à appeler au calme ?
L'important, c'est qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes vraiment tous sur la même ligne. Il faut que les désordres cessent.
Ça a mis du temps.
Il faut le retour à l'ordre. Et par ailleurs, il faut qu'on soit tous aujourd'hui en soutien de nos forces de l'ordre et tous unis pour ramener cette paix sociale.
Valérie Pécresse, vous vous entendez bien avec Emmanuel Macron ?
Moi, je suis dans une position d'opposition. Ça veut dire que je propose. Vous avez vu que
alors,
je propose
je vous demande
de
ça,
modifier
je prolonge
le code
juste,
pénal.
Je prolonge juste ma question.
Je propose aussi d'être dans un état de sécurité renforcé. Je serai toujours en proposition parce que c'est mon rôle. Je suis une opposante, mais je propose.
Alors, opposante, je vous demandais ça parce que vous réclamiez le retour des heures supplémentaires défiscalisées. C'est fait. Un geste pour les retraités, c'est fait. Un coup de pouce sur les bas salaires, ça aussi, c'est fait. Bref, vous pourriez remplacer Édouard Philippe à Matignon parce qu'Édouard Philippe, il est contre ces trois mesures et il est à Matignon. Vous, vous êtes pour et vous êtes dans l'opposition. Est-ce que c'est logique ?
Je vous l'ai dit, je suis dans l'opposition, je suis là pour proposer des sorties de crise. Parce que quand mon pays va mal, quand il risque de se déchirer, eh bien, on doit tous se retrousser les manches. Le président de la République a entendu, il a entendu tardivement, mais il a entendu le cœur des problèmes des Français qui veulent vivre dignement de leur salaire et de leur retraite. Maintenant, il faut que toutes ces annonces, toutes ces futures dépenses ne soient pas financées par la dette. Parce que la dette, c'est demain, c'est des impôts. Donc il va falloir faire des économies sur les dépenses. Et alors peut-être que je suis un peu, une voix singulière, mais je sais qu'on peut dépenser moins et avoir plus de services publics à la fin. Je l'ai prouvé encore hier, on a mis en concurrence les transports scolaires dans ma région, eh bien, on dépensera moins pour les transports scolaires et on en aura plus l'année prochaine. Donc on peut baisser les dépenses, faire des économies et avoir plus de services publics et moins d'impôts. Et c'est ça que je demande au gouvernement.
Merci Valérie Pécresse.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale tous les jours sur Europe 1 à 8h15.
Europe 1, il est 8h25.
À suivre la revue de presse de David Abiker, comment Facebook chasse-t-il les contenus haineux et les fake news en circulation. Le Monde a pu visiter la cellule de surveillance, c'est édifiant. 8h45, pas de haine, pas de fake news ou presque. L'actualité revisitée par Nicolas Cantelou avec Julie, à tout de suite. Bonne matinée à tous.
La revue de presse de David Abiker, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Froid, on ne parle même plus de fraîcheur, là on parle de froid, Laurent Cabrol.
Un vrai froid avec de la pluie qui arrive et la perturbation, elle a bien avancé. Hein. Je la piste depuis tout à l'heure. On appelle l'Hercule Poirot de la météo.
Je vous vois avec la loupe et le doigt mouillé.
Voilà, elle est pas loin de Toulouse, elle est à 100 km de Toulouse, elle entoure Bordeaux, elle vient de passer sur Nantes, elle a quitté un peu Rennes, mais il y en a encore un petit bout derrière. Enfin bref, voilà, chers amis, vous qui habitez tout l'ouest de la France, vous êtes sous les pluies qui vont arriver ou qui arrivent, mais là, elle ne va pas aller trop loin puisque l'anticyclone va la bloquer, de sorte que les régions seront à l'abri, la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne, Champagne, Ardennes, le Rhône-Alsace, autant de régions qui seront à l'abri de cette pluie, la vallée de la Loire aussi, le Massif central et Rhône-Alpes. A noter qu'en ce qui concerne les pluies, elles vont gagner l'ensemble du bassin méditerranéen, la basse vallée du Rhône, vous voyez que dans le sud, elle va bien pénétrer dans le pays,
quand
alors
même
que sur le nord, elle restera sur les côtes. Voilà.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
Et bien juste après la revue de presse de David Abiker, il est là, il est en place, il arrive, petit coup de fil à Grand Corps Malade, je vais appeler l'artiste parce qu'il sort 4 titres inédits aujourd'hui. Et c'est aussi un artiste concerné, il n'aime pas quand on dit un artiste engagé. C'est un artiste concerné par ce qui se passe en France et dans le monde.
Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 décembre, il est 8h30. 7h,
9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Et tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse, Nikos.
Bonjour Monsieur Abiker.
Bonjour Monsieur Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Ce matin dans l'actualité, il y a deux mots, la traque et la prime. La traque en une des dernières nouvelles d'Alsace, la traque à la une du Parisien aujourd'hui en France, ou bien la chasse à l'homme en une de Paris-Normandie. Chasse à l'homme donc, mais également chasse à la prime dans les journaux comme L'Opinion ou Les Échos qui font la liste des premières entreprises qui verseront une prime de Noël à leurs salariés en soutien des annonces présidentielles de lundi. La traque continue en une de L'Observateur qui consacre un dossier aux fake news, les faux aliments, faux et nocifs, la soupe de poulet, sans poulet, le jambon élevé en laboratoire, le foie gras recoloré ou encore le boudin à l'eau. Ce matin, la presse, elle traque évidemment le terroriste, elle chasse la prime, la fausse bouffe et aussi la fausse nouvelle.
On va commencer, David Abiker, avec les papiers qui vous ont le plus enthousiasmé dans vos lectures matinales.
Et d'abord un édito de Maurice Bontinck dans la Charente Libre. Oui, des illuminés pensent que l'attentat de Strasbourg sert Emmanuel Macron, c'est la théorie du « comme par hasard ». Mais attention, à force d'associer tous les gilets jaunes à ces élucubrations nées sur Facebook, on obtient l'effet inverse de celui recherché, c'est du bon sens. Bien vu. L'autre papier, c'est un scoop du Monde qui a pénétré pour la première fois les bureaux de Facebook. Les bureaux où Facebook traque les contenus incitant à la violence, la propagande terroriste et les images porno. Ça se passe à Barcelone, un lieu où la presse n'était pas tolérée jusqu'à présent. Vous avez 800 personnes qui utilisent là-bas un logiciel qui détecte les images, les mots et les contenus suspects. La traque a démarré en 2015, année où les États européens ont commencé à durcir le ton. 50 millions d'euros d'amende en Allemagne si un contenu illicite reste en ligne sur Facebook. Plus de 24 heures, ça fait réfléchir la multinationale. 30 000 salariés dans le monde entier travaillent chez Facebook à désinfecter le réseau, soit 2 millions de contenus problématiques par jour. Oui, un métier soutenu par une équipe de psychologues qui assiste les salariés de toute nationalité, français compris. Des salariés qui sont fiers de leur travail, nous dit Le Monde. On protège les gens, on fait le ménage, dit l'un d'eux. C'est à lire absolument.
Oui, absolument, c'est un article édifiant dans le quotidien Le Monde. Et puisque vous parlez des salariés, David Abiker, la presse ce matin est partie à la chasse à la prime de Noël.
Si vous travaillez chez Total, Free, chez SFR, chez Orange ou encore chez Publicis, ben vous avez de la veine. Ces entreprises vont verser la prime annoncée lundi par le président de la République, nous explique ce matin Le Parisien aujourd'hui en France ou Les Échos. Plus facile pour les grosses entreprises que pour les PME, rappelle-t-il, tandis que Le Monde, encore lui, s'interroge sur son impact économique qui pourrait provoquer une hausse de la consommation de 0,2%. C'est pas rien, un effet comparable à la victoire de la France en Coupe du Monde de foot cet été. Mais un économiste tempère, car cette prime pourrait limiter les augmentations de salaire déjà prévues par les entreprises et qui, elles, sont fiscalisées. Bref, la prime de Noël, elle pourrait bien arranger ceux qui la versent autant que ceux qui la reçoivent.
Alors, chasse à la prime et dans le Nouvel Obs, chasse aux fake foods. C'est quoi ça, les fake foods ?
Eh ben, vous avez ceux qui traquent les fausses infos et ceux qui désormais font la chasse aux aliments à la composition trompeuse. Non seulement c'est trompeur, mais l'Obs explique ce matin qu'en vous trompant, en ajoutant des cochonneries chimiques dans les aliments qui n'en ont pas besoin, on risque de propager l'épidémie mondiale de cancer, d'obésité, de diabète. L'Obs décortique pour vous 12 produits qui ne sont pas ce qu'ils disent être. Exemple, la tisane aux queues de cerise, dont il n'est pas démontré qu'elle permette de pisser plus. Le boudin à l'eau qui permet d'y mettre moins de viande. La soupe au poulet sans poule, le surimi sans homard, le foie gras qui contient du nitrite de sodium cancérigène. Bref, de même qu'il existe un Conspiracy Watch, un observatoire des fausses nouvelles, il existe l'observatoire de la nourriture, Foodwatch, qui lance aujourd'hui une campagne contre la fausse bouffe. Moralité, les rayons de nos supermarchés sont comme les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger.
Bravo.
Enfin, je vous invite à lire sur le site Vice un article intitulé « Être de droite permet-il d'être plus heureux ?» Ça commence par cette phrase « Vivre dans une grande ville peut s'avérer difficile pour la santé mentale d'un individu. » Et l'auteur de citer plusieurs études scientifiques démontrant que dans le monde incertain, plein de dangers, les gens de droite résistent mieux car ils se protègent du doute grâce à leur certitude qui les blinde contre le malheur d'autrui. Par opposition, les gens de gauche seraient plus sensibles à l'état du monde qui les entoure. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a le mérite d'être drôle. Et si vous lisez ça en écoutant du Sardou, de droite comme de gauche, ça peut même vous rendre heureux.
Mais dans les villes de grande solitude, tous les héros se sont évolués.
Mon héros de 8h30, c'est David Abiker. C'est tous les jours, c'est la revue de presse sur Europe 1.
Europe 1.
Et il est 8h36.
À suivre, c'est votre journée. On va passer un coup de fil à Grand Corps Malade. Le poète, slameur que vous aimez, que vous suivez depuis pas mal de temps maintenant, sort un album, plutôt une réédition avec 4 titres inédits pour évoquer avec lui l'engagement, l'actualité dans quelques instants. Grand Corps Malade, 8h45. Alors lui, c'est plutôt avec ses imitations qu'il évoque l'actualité. Mister Canteloup et Julie. La revue de presse, à tout de suite. Bonne matinée à tous sur Europe 1. La mort d'un sixième gilet jaune depuis le début de la mobilisation. Un jeune homme de 23 ans heurté par un routier polonais. Ça s'est passé sur un rond-point d'Avignon. Le conducteur est en garde à vue. Ce matin, le gouvernement appelle les gilets jaunes à ne pas manifester samedi pour éviter de mettre les forces de l'ordre à contribution. Chérif Chekat, le tueur de Strasbourg, reste introuvable. La police lance un appel à témoins. Les chefs d'entreprise appelés à se mobiliser en faveur du pouvoir d'achat. Information Europe 1, la baisse de l'impôt sur les sociétés pourrait être reportée d'un an, soit une économie de 2,5 milliards d'euros.
Europe 1.
Nico Saliagas, c'est votre journée.
Coup de fil, comme tous les jours, à celui ou celle qui fait l'actualité. Et ce matin, on est en ligne avec Grand Corps Malade. Bonjour, Grand Corps Malade.
Bonjour.
Quelle voix matinale.
Ouais, encore plus rauque que d'habitude.
Encore plus basse. Vous proposez une nouvelle version de votre dernier album Plan B avec 4 titres bonus. L'album est déjà sorti en début d'année et a connu un grand succès. Là, vous avez déjà 12 ans de carrière derrière vous. Est-ce qu'on peut dire que vous avez lancé le slam en France ? Auriez-vous parié sur un tel parcours à vos débuts, Grand Corps Malade ?
Non, évidemment, bien sûr que non. En plus, le slam s'était voué à être quelque chose un petit peu hors des médias, hors des grands réseaux de distribution. C'était dans les petits cafés. Et puis, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, pas du tout. Mais voilà, c'est vrai que par le biais de mon premier album, j'ai mis un coup de projecteur dessus et j'ai fait connaître un peu le slam au grand public. Et bon, bah voilà, je suis très très honoré de représenter ce mouvement-là, quoi.
Et votre parcours personnel aussi. Vous avez eu un accident, un plongeon dans la piscine, et vous êtes reconstruit aussi en tant qu'être humain. Être artiste, pour vous, c'est être engagé ou concerné par le monde ?
Ben ouais, je fais souvent la différence entre les deux. Quand on me demande si je suis engagé, j'ai presque l'impression que ça se mérite d'être engagé. En tout cas, c'est pas à moi de dire si je le suis. Alors voilà, sans trop jouer sur les mots, en tout cas, je dis que je suis concerné. Voilà, les autres diront si je suis engagé ou pas. Mais moi, en tout cas, je me sens concerné. Je suis pas un artiste loin de tout dans ma bulle. Non, je suis concerné par mon époque. Je suis concerné par l'actualité. Je suis un citoyen. Je vote. Je regarde comment ce qui se passe autour de moi. Je m'intéresse. Je m'inquiète aussi pour mes enfants. Enfin voilà, je suis concerné.
Puisque vous êtes concerné, voici votre dernier single, ça s'appelle « Sur la lune », dans lequel vous dépeignez les contradictions de l'homme, qui est capable du pire comme du meilleur. On écoute.
Pourtant, il a marché sur la lune. Pourtant, il a dansé sur les dunes. Pourtant, il a marché sur la lune. Pourtant, il a dansé sur les dunes.
Là, vous ne slamez pas, là, vous chantez, Grand Corps Malade.
Oui, voilà, depuis. Ça m'est venu progressivement lors de la tournée précédente. Donc là, on entend derrière, je suis en train de slammer dans les couplets. Et puis, pour le bien d'un petit refrain ou d'une petite chanson, je pousse un peu plus la chansonnette que d'habitude. Ouais.
Vous dites, il a créé des vaccins en parlant de l'homme, mais crée des cancers. Il a créé l'imprimerie, mais crée l'arme nucléaire. Il a créé la peinture et les plus belles symphonies, mais il a créé Trump, Zemmour et Loft Story. Ça, c'est de l'engagement.
Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que, en effet, l'homme est doué d'une intelligence quand même supérieure par rapport aux autres races animales. Et c'est vrai que c'est absolument fabuleux d'imaginer qu'il a pu marcher sur la Lune, qu'il a inventé des choses tellement incroyables et que des fois, il a mis son intelligence très mal à profit et il est capable d'horreur absolue. Et puis bon, à la fin, un petit clin d'œil, petit tacle à certains noms qui font l'actualité, en effet.
L'actualité, ce sont aussi les migrants. Vous en parlez dans vos chansons, dans vos morceaux en tous les cas. Vous êtes sensible à l'actualité, à ce qui se passe aujourd'hui en France, à cette crise social, mais également à ce qui s'est passé il y a 2 jours à Strasbourg.
Évidemment, bien sûr, on peut pas ne pas être sensible à ça. Et le monde est en pleine mutation. Et donc on parle des migrants. Je préfère d'ailleurs dire les réfugiés, parce que c'est pas n'importe quelle migration. C'est des gens qui essayent d'échapper à la misère ou à la guerre, etc. Et puis voilà, le monde va pas très bien. Et puis la France non plus. Hein. On voit avec cette crise profonde qui vient de la province, qui vient de gens qu'on n'entend pas forcément d'habitude, un vrai ras-le-bol. Et puis après, évidemment, l'actualité, elle est maillée de certains drames, comme avant-hier à Strasbourg.
Et le rôle de l'artiste, c'est quoi ? C'est de prendre position ou d'accompagner les gens et de les faire rêver, leur faire du bien ? Selon vous, Grand Corps Malade ?
J'espère un peu de tout. L'artiste, il est là aussi pour dépeindre et pour raconter ce qui va bien, pour en rendre beau certaines situations, rendre belles les choses. Donc il y a une espèce de... Le slam, c'est aussi de la poésie, donc on essaie de mettre de la poésie dans notre quotidien. Mais après, c'est aussi accompagner ce qui ne va pas, c'est aussi parler de choses moins belles, moins jolies. Alors après, attention, l'artiste ne doit pas prendre position sur absolument tous les sujets d'actualité. Mmh. Moi, je ne me sens pas légitime pour analyser toutes les choses, mais de temps en temps, quand quelque chose me touche et que je me sens assez légitime...
De l'exprimer, plus que de l'imposer, en fait, c'est ça.
Oui, voilà, ça, j'exprime juste ma façon de voir les choses, et des fois, voilà, j'essaie de le prendre par un biais un petit peu poétique.
Il a marché sur la Lune, l'homme, c'est pas une fake news, vous le confirmez, on parlait de ça justement ce matin, du fake news, parce que certains doutent encore que l'homme ait marché un jour sur la Lune. Merci Grand Corps Malade d'avoir été avec nous en ligne ce matin, édition de luxe de votre album Plan B, réédité avec 4 nouveaux titres. Et puis la tournée, vous serez le 11 janvier au Havre, le 8 février à Mérignac, le 21 mars à Metz, le 23 mars, le 27 mars à Marseille, et puis vous serez à l'Olympia les 10, 11, 12 octobre 2019. Bonne journée, Grand Corps Malade.
Europe 1.
Il est 8h44. À suivre, Nikos Aliagas.
À suivre, un autre poète. Je ne sais pas si sa voix est aussi basse, mais lui, il peut tout faire. Hein.
Ça,
il se balade
faux.
Avec son organe vocal. Nicolas Canteloup et Julie. La revue de presse que juste après ça. Bonne matinée à tous. Si vous partez travailler, on vous accompagne. Si vous êtes à la maison tranquillement, on est là pour vous. Et si vous êtes dans les embouteillages ou tout simplement
on est également
dans
là.
Les transports en commun avec l'application Europe 1, vous n'êtes pas tout seul. Merci beaucoup.
Il est 8h45.
La revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on revient au titre principal de l'actualité avec vous, Nikos.
Et oui, ma chère Julie. Ma chère Julie, ce matin, l'actu surround, on en a parlé à 8h, c'est l'augmentation du salaire minimum en Espagne. 22%, oui, 22% en plus. Alors nous allons demander, puisque Europe 1 va plus loin, son avis à nos auditeurs espagnols.
Ah. Oui.
Oui, parce qu'on a des auditeurs espagnols. Si ça se trouve, on fait des audiences de feu en Espagne. Et on le sait même pas. Il faudrait quand même faudrait comptabiliser tout ça.
Alors c'est qui cet auditeur ?
Alors c'est Manuel Valls, toujours candidat à la mairie de Barcelone. Monsieur Valls, vous entendez, Monsieur Valls ?
Oui, cher Nikos Aliagas, bonjour. Permettez-moi de dire bonjour à tous vos auditeurs. Hola, todos los auditores de Europa Uno.
Si, bravo.
Écoutez, lorsque j'ai appris, oui, cette hausse de 22%, ce n'est pas rien, 22% du SMIC, ça m'a fait, comment vous dire, très drôle, bizarre. J'ai eu tout de suite des sueurs froides, oui, des palpitations. Un Premier ministre socialiste qui ose annoncer une mesure de gauche. Non, quand j'apprends ça, monsieur Aligas, j'ai mal à mon 49.3, j'ai un ulcère à ma loi de travail. S'ils se mettent à être de gauche en Espagne, j'ai pas fini de morfler.
Merci, monsieur Valls. Hola, compañeros.
Hola, compañeras.
Et puis, ma chère Julie, on cherche toujours le tireur de Strasbourg, Shérif Shekat. Shérif Shekat serait en Allemagne, mais il ne parle pas allemand. Écoutez, c'est pas un problème pour lui, il se dit bien musulman alors qu'il n'a visiblement jamais lu le Coran.
Merci Nikos. Après l'attentat de Strasbourg, l'Elysée a annoncé que la France passait au niveau d'alerte urgence attentat. On est avec le président des Républicains. Bonjour Laurent Wauquiez.
Madame Julie.
Ah, solennel.
C'est ça votre réaction? C'est tout ce que vous trouvez à dire?
Quoi?
Vous ne trouvez pas que c'est indécent?
Bah quoi?
Une journée comme aujourd'hui, la France est sous le choc. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est me dire bonjour, monsieur Wauquiez. Je me souhaitais, pour résumer, une bonne journée. Faites attention, prenez garde. Les Français n'oublieront pas votre réflexion.
Oh, ça va, ça va. Que pensez-vous de ce passage au niveau d'alerte urgence attentat?
Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Attendez un instant.
Oula, attendez, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que vous faites là?
Je passe en niveau alerte. Urgence récupération. Niveau d'alerte urgence récupération, c'est cet individu, écoutez-moi bien, était fichés. Il faut les enfermer préventivement, les fichés. Il faut les expulser, les radicaux. Il faut interdire le salafisme. Il faut que j'aille plus vite que Marine Le Pen. Il faut ces électeurs, pardonnez-moi, votent pour moi. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que...
Dites donc, monsieur Wauquiez.
Ah, Marine Le Pen, bonjour à vous
aussi. Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Wauquiez, un peu de décence, s'il vous plaît. Les Français méritent mieux que cela, n'est-ce pas, monsieur? Et les Français méritent que cet attentat, n'est-ce pas, soit récupéré par des professionnels de la récupération. Nous, excusez-moi, madame Leclerc, mais au Rassemblement National, nous avons 45 ans. Oui, 45 ans d'expérience en récupération diverse. Donc, n'essayez pas, monsieur Wauquiez, de duper de façon éhontée nos concitoyens.
Ok, merci à tous les deux. En tout cas, cet attentat sur le marché de Noël de Strasbourg agite beaucoup l'opposition. Éric Ciotti, vous êtes avec nous maintenant en direct d'un marché de Noël, hein, c'est ça?
Oui, bonjour Madame Julie.
Bonjour Monsieur Ciotti.
Bonjour à votre équipe, hein, Mme Bouchard, M. Cabrol, M. Aliagas. Je n'aperçois pas, mais non, forcément, je suis au marché de Noël, Mme Acosta.
Je suis là,
elle est là depuis 5h du mat, attendez.
Écoutez, je suis en visite sur un marché de Noël parisien. Et ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, le gouvernement n'a rien fait. Ah. Il faut oser le dire, quitte à être concomitant.
C'est n'importe quoi. Alors, Monsieur Ciotti, on ne va pas supprimer les marchés de Noël quand même.
Mais on aurait pu empêcher cet attentat. Vous savez, très simplement, si le gouvernement interdisait très simplement les marchés de Noël, nous n'aurions pas ce type de problème. D'où je vous parle, vous savez, j'assiste à des choses scandaleuses. Je vois là, ici, des, vous voyez, des, enfin, vous ne voyez pas, mais il y a
des cabanons
où l'on vend à 20 euros des barquettes de tartiflettes, excusez-moi, sans pommes de terre. C'est une honte.
N'importe quoi, là.
Monsieur Apathy, j'ai acheté un Père Noël musical. Il a tenu 2 heures avant de rendre l'âme. Est-ce le monde que l'on veut pour nos enfants?
Oh, arrêtez. On va garder nos marchés de Noël et puis voilà.
Non, non, mais écoutez, il faut savoir ce que l'on veut. Moi, je peux vous dire que
quoi?
Nous
maman,
avons...
Maman, regarde, il y a un lutin du Père Noël. Il est tout chauve. C'est le roi des lutins, tu crois?
Non, 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 mon enfant, je ne suis pas un lutin, mon chéri. Je suis un homme politique, je suis Éric Ciotti.
Si t'es un lutin, t'es tout petit. Et pourquoi t'es plus petit que moi?
Mais donc, non, mais dis donc, tu restes poli, tiens-toi là, hein? Voilà, tu n'as pas volé celle-là, hein? Petit voyou, va. Oui, voyez, Mme Julie, le marché de Noël, c'est source de violence.
Oui, c'est ça, on a compris.
À cause d'une barquette de tartiflette.
Oui, c'est ça, merci, monsieur.
À 20 euros sans pommes de terre.
C'est magnifique, la voix de l'enfant.
C'est Nico qui fait la voix de l'enfant?
Je sais pas.
Non,
qui c'est,
je pense qu'il fait ça en famille, hein, Nico, dans notre dos.
C'est du Canteloup Junior, ça.
Il faut mettre toutes les générations en contribution dans notre société, quitte à les réveiller tôt le matin.
Il est en retard à l'école.
Je veux dire qu'il a dû répéter prendre des claques. Il arrive avec les joues roses à l'école. Voilà.
Arrête. C'est interdit en France.
Mais oui, vous êtes
pas chez moi.
Allez, on en revient à notre sujet. La représentation nationale est évidemment marquée par l'attentat de Strasbourg. Gérard Larcher, vous êtes président du Sénat. Bonjour à vous.
Merci. Merci d'avoir parlé de tartiflette, de pommes de terre dans votre émission du matin. Madame Julie, un peu de sérieux, monsieur Lagasse. En tant que président, en tant que président du Sénat, je suis évidemment très atteint. Mais les terroristes ne gagneront pas. Ah. En 2015, nous avons soutenu Paris en nous rendant sur les terrasses. Eh bien, je le dis solennellement, Madame Julie, cette année, je soutiens Strasbourg en mangeant ce matin des saucisses.
Ah. Magnifique.
On a été surpris là.
Et j'ai fait imprimer, voyez-vous, mon t-shirt, je suis choucroute. Et j'en ai un pour demain, je suis Kougolov. Ils ne gagneront pas, Madame Julie, monsieur Agas.
Merci. Merci beaucoup, Gérard Larcher.
Je peux avoir même une barquette de tartiflette, même sans pomme de terre.
L'assaillant de Strasbourg s'appelle donc Shérif Chekat. Il s'est enfui en taxi après avoir attaqué le marché de Noël de Strasbourg. Les Français sont évidemment choqués. On va voir ce qu'on en dit du côté de chez notre ami Jean-Jacques Bourdin.
Ah. Bonjour, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, excusez-moi.
Bonjour.
C'est Jean-Jacques, oui, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC, radio, mosquée et choucroute.
Oui, ça va. C'est bien.
Nous allons revenir, bien sûr, sur l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. On est en ligne avec un témoin. Alors, quel est ce témoin? Écoutez, c'est de façon exceptionnelle parce que c'est Noël. C'est Noël, nous avons décidé de donner la parole à un reine. Oui, un renne du Père Noël. Bonjour, monsieur le renne.
Ouais, salut, j'ai Jacques. Hein. Je sais que c'est Noël, mais non. Je suis pas un renne, je suis René. C'est l'accent, là.
René.
Ah, pardon, pardon, René. C'est très drôle, c'est très drôle.
Très drôle, oui.
Christine, franchement, je vais pas vous tenser parce que c'est Noël. Vous, regardez, mettez un accent, Christine. Hein. Faut arrêter le Gewürztraminer, hein, Christine. Bon, écoutez, c'est la trêve, je ne vais pas vous en faire plus que ça. Alors, René, excusez-la. Je me souviens, vous nous aviez contacté car c'est dans votre taxi, et ça c'était une exclue.
Ah.
C'est dans votre taxi.
Dans le taxi de René.
Que Shérif Shekat s'est enfui. C'est bien ça, c'est exclusif, René.
Eh ouais, tu te rends compte, c'est moi qui l'avais dans le taxi, je te raconte.
C'est fou.
Je maraudais, tu vois, avec la bagnole, un coup, j'avais pas de client, je m'emmerdais, je roulais. Ouais. Il y a un type, il rentre dans mon taxi, classique, il monte, bon, le client, et là, putain, je vois qu'il a un Colt.
Ouais.
Et il me dit, ouais, mais je m'appelle Shérif. Bon, si tu veux, au début soupçonne, mais bon, il a un Colt, il s'appelle Shérif, c'est raccord, tu vois, donc je me méfie pas, tu vois.
Oui, évidemment, il s'appelle Shérif, il a un Colt. Tout le monde aurait fait la confusion, René. Et donc, vous l'avez pris pour un shérif américain, c'est ça.
Ouais. Puis après, il me dit, s'il vous plaît, monsieur, j'y vais aller à Düsseldorf, Nardinemouk, tu vois, un accent comme ça.
Ouais.
Là, je me dis, oh putain, toi, t'as pas l'accent du Texas, hein. Et là, tu vois, je gamberge, je fais le lien direct. Je me dis, bon allez, j'ai compris, c'est un arabe. René, rend service à la nation. Hein. Si c'est un arabe, tout le monde il sera content que tu l'as reconduit à la frontière.
Eh oui, un arabe, tout le monde il sera content que tu l'as reconduit à la frontière. C'est patriote en fait comme réflexion, René. Merci, merci beaucoup. Seulement, aujourd'hui, il est dans la nature.
Eh ouais. Là, j'ai manqué de présence d'esprit, tu vois. J'ai pas pensé à lui demander son adresse.
Eh oui.
Mais bon, là, moi, je suis au service de la nation. S'il y a besoin, je suis OK hein, pour retourner le chercher. Hein. Juste parce que j'ai l'adresse, hein. J'ai juste besoin quand même, avant de donner l'adresse, qu'on me paye la course. Parce que c'est une course à 350 balles. Hein.
Eh oui,
de toute façon,
il y a des réalités financières.
En Allemagne, s'il est parti là-bas pour voir 72 vierges, je la connais l'Allemagne, je suis frontalier. S'il y a une Allemande qui est vierge, c'est qu'elle a la tronche de Merkel. Il va pas vouloir rester longtemps. Hein.
Ça devient quoi, ça?
Écoutez, c'est une analyse absurde. Vous avez déjà passé la frontière, monsieur Légasson. C'est une analyse théologique intéressante. Vous êtes un expert en religion, René. Merci en tout cas de vos éclairages. À vous.
Bravo. C'est déjà fini, quel dommage. Oh là là.
Rire de l'actualité, ma chère Julie, même quand c'est difficile. Facile, alors, rire ne répare pas tout, mais quand il y a du talent, de la bienveillance, eh bien, ça nous donne la force d'y croire et d'espérer. Bravo, Nicolas Canteloup. Merci beaucoup pour l'avoir vu de presque.
À suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nicos.
Comment se couvrir ce matin, Laurent Cabrol?
D'un mot, couvrez-vous bien, puisqu'il fait froid et il fera encore froid dans la journée, entre 0 et 7 degrés sur deux tiers des villes de France. D'un mot encore, la pluie est près de l'Atlantique et elle va gagner tout le sud-ouest et le bassin méditerranéen où on commence déjà à se manifester. Et puis ailleurs, notamment sur le nord, le nord-est, l'est, sur la région parisienne, la Normandie et le centre, et nous aurons un temps sec et presque ensoleillé. À 10h, je vous donnerai la tendance pour la semaine qui vient.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Nico Saliagas, on revient sur les moments forts de cette matinale.
Et à la une de l'actualité ce matin, un nom, un visage, celui de Shérif Shekat, l'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg. Et depuis mardi soir, l'homme le plus recherché de France. Un appel à témoins a été lancé. Plus de 700 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les Strasbourgeois sont inquiets. Ils craignent qu'il puisse repasser à l'acte. Comme Myriam, on l'écoute, c'était dans le journal de 7h30.
J'attends juste qu'on nous dise qu'ils l'ont attrapé, bien sûr, ça fait peur. J'ai ma fille de 6 ans qui a vraiment eu peur. Et je lui ai dit que la police, elle va tout faire pour essayer d'attraper la personne qui a fait ça. Et qu'il fallait pas qu'elle s'inquiète, que j'étais avec elle. Et franchement, j'espère qu'ils l'arrêteront. Maintenant, la personne, elle doit se dire foutu pour foutu, je peux faire n'importe quoi. Hein. Du coup, on n'est pas en sécurité.
Et si vous avez la moindre information, vous pouvez joindre le 197. Shérif Shekat avait été déjà condamné 27 fois. Il était fiché S depuis sa sortie de prison. Alors, y a-t-il eu un défaut de surveillance? Comment mieux contrôler les individus radicalisés à leur sortie de prison? Ils seront 300 en 2019. J'ai posé la question à un criminologue, Alain Bauer. Il était mon invité à 7h45.
Les services de police ou de renseignement l'ont suivi, identifié, surveillé, raté, mais ils allaient l'arrêter. Donc on peut leur faire quelques reproches, mais certainement pas tous les reproches. C'est simplement un processus général de révision de notre politique pénale. Revisiter, par exemple, la rétention de sûreté pour des gens qui ont été condamnés pour des faits qui ne sont pas tous liés au terrorisme, c'est son cas, et qui, devenant djihadisés en prison, pourraient être amenés à ne pas sortir dans les mêmes conditions que ce qui est prévu par la loi.
Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci à toutes les équipes, merci à vous de nous avoir suivis. Une journée ensemble, c'est une journée de gagner, dans la bonne humeur, dans l'info et dans le respect. Wendy Bouchard arrive avec ses invités, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À demain.